Lettre historique concernant des événements et des services en Irlande. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un renvoi aux écritures ou des détails dans les écrits. Les lettres suivantes se rapportent au premier progrès de la vérité en Irlande. N.C. Francis Raugh et la Margaret Fell Dublin, le 30 du 7e mois, 9e mot, 1655. Cher M. F. Après nous être séparés de vous à Swarthmore, nous sommes descendus à Warrington ce premier jour, et il y eut une assemblée extrêmement nombreuse. D'Ormskirk et des environs de Liverpool, beaucoup vinrent, mais nous étions pressés de poursuivre notre route et de ne pas rester. Et ainsi nous sommes venus à Chester, et avons visité les prisonniers, et sommes restés en ville toute la nuit. Le lendemain, nous sommes arrivés à la mer, mais le vent était contraire. Quand nous avons appareillé, le vent soufflait doucement, et ainsi nous avons été 2 jours et 2 nuits en mer. Le 4e jour de la semaine, nous sommes arrivés à Dublin, et le 5e, nous avons eu une réunion chez un capitaine riche. Le 1er jour, nous avons eu une réunion dans la maison du capitaine Allan, où beaucoup de gens vinrent et tout s'était calme. Les capitaines sont affectueux mais il n'y a pas grand-chose en eux. Edward Burrough est monté chez le député, où il y avait une réunion de Baptiste. Il y a été 3 fois et a parlé avec Fleetwood lui-même, qui était modéré beaucoup comme O.C. Cromwell. Mais les officiers se sont inclinés devant l'idole du baptême pour être promus, car cela les baptistes a prospéré ici pendant quelque temps, mais maintenant cela se flétrit. Nous sommes ici depuis environ 3 semaines et nous avons de bonnes réunions le 1er jour, mais les Irlandais sont un peuple insouciant, dissolu et orgueilleux. Edward Burrough est monté à la Phoenix et je suis resté à la réunion. Elle était assez grande et calme et il y a des désirs pour Dieu en beaucoup. Mais maintenant, mon bien-aimé compagnon de joug et moi devons nous séparer, nous qui avons porté le joug si longtemps ensemble. La croix est grande dans une nation si étrange et barbare. Pourtant elle n'est pas aussi grande que si quelque autre que Dieu nous avait séparés. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Je suis poussé à aller à 100 000 vers l'ouest dans la nation en direction de Cork. Il y a là un service et un peuple à rassembler de ce côté-là, jusqu'à Kingshall et Bandon Bridge, à l'extrémité du pays. Edward Burrough doit rester ici, car nous ne pouvons pas encore quitter cette ville, mais je suis livré à tout abandonner pour celui qui m'a fait vainqueur, gloire à lui à jamais. Saluez-moi dans le Seigneur auprès de tous vos enfants et de toute l'Église là-bas. Et si vous en êtes libre, écrivez un mot à ma femme. Ainsi que le bras éternel de Dieu nous préserve dans sa puissance, et que, si telle est sa volonté, nous puissions nous revoir, afin que nous puissions louer le Seigneur ensemble. Votre cher frère dans la vie immuable de Dieu, Francis Raugh, d'après l'original, qui porte une mention de George Fox 1655 et est adressé à Swarthmore. NCV Edward Burrough à Margaret Fell Dublin 1655. Ma très chère sœur bien-aimée, en qui mon âme est rafraîchie par le souvenir de vous. Je vous salue tendrement dans la source de vie, dont je bois avec vous, et suis chaque jour nourrie et rafraîchie. Mais c'est avec lourdeur d'esprit que je vous écris, oui, et les yeux pleins de larmes, car je suis séparée au dehors de mon cher frère bien-aimé, Francis Raugh, qui fut mon homme de main droite dans la guerre, devant qui bien des Philistins sont tombés. Et vraiment, quand je considère ce que le Seigneur a fait par nous, mon cœur est déchiré et brisé. Nous avons goûté bien des jours glorieux et eu bien des heures agréables ensemble en partageant le butin de notre ennemi, car notre main était toujours forte dans la bataille et notre enseigne était levée au-dessus de nos ennemis et même des milliers sont tombés à notre droite et à notre gauche. Mais selon la volonté de Dieu, nous sommes maintenant séparés, lui étant parti vers l'ouest de cette nation, à 100 ou 120 000 de Dublin, où je dois rester un temps, pour autant que je sache, et véritablement je suis sous une grande souffrance, car peu ici ont faim de Dieu, et l'aveuglement et la surdité se sont emparés de tous. La petite Elizabeth Fletcher est présentement ici, mais je ne sais combien de temps elle restera. Son cher amour va vers vous et vers tout le troupeau de Dieu. Vraiment je souffre pour elle, comme étant pour ainsi dire seule, n'ayant aucune autre femme avec elle dans cette nation ruinée, où voyager est très pénible, tout à pied et aussi dangereux, mais nous sommes bien au-dessus de tout cela. Si telle était la volonté du Seigneur que des femmes soient poussées à venir ici pour être avec elle, cela pourrait être utile au service. Je me suis réjoui que Francis Raugh ait eu une si bonne occasion de voyager dans son trajet. Il est parti avec un officier de cavalerie et quelques autres, qui nous étaient très affectueux, et sont venus aux réunions pendant qu'il séjournait dans la ville. Saluez-nous auprès de toute la famille et auprès du cher troupeau de Dieu là-bas. Depuis que nous sommes venus en Irlande, nous n'avons reçu aucune lettre de vous du Nord ou de Londres. Nous avons écrit à Londres, mais nous n'avons eu aucune réponse. Si le vent n'est pas entièrement contraire, il y a ici un courrier hebdomadaire. Que vos prières montent vers le Père éternel pour nous, afin que sa crainte nous accompagne par-dessus tout. Notre séparation fut un lourd fardeau pour nous deux, surtout dans cette nation étrangère, mais nous avons vu que cela venait de Dieu, et nous en avons porté la croix. Quand vous en aurez l'occasion, écrivez-nous, cela me réjouira. Un seul visage d'un ami réjouirait mon âme. J'aimerais entendre parler de George Fox et de James Neely, et des autres dans le Sud, où je sais que l'œuvre du Seigneur est glorieuse. Bien que quelques-uns se réjouissent pourtant, en vérité, nous sommes pour le moment des hommes de douleur, mais reposant dans la volonté de notre Père Céleste. Je suis votre cher frère, Edward Burroughs. Depuis que j'ai écrit ceci, un ami est arrivé ici d'Angleterre, d'Oxford, Thomas Lowe, disant qu'il avait été poussé à venir, et je le crois, je suis rafraîchi par lui. D'après l'original, la lettre est sans date, mais l'année 1655 y est indiquée par une mention de G. Fox écrit Edward Burroughs à Margaret Fell Waterford, le 5 du 11e mois, 1655. Premier mot. 1656. Sœur bien-aimée, que je n'oublie pas, mais dont je me souviens avec bonté, et dont je ne suis pas oubliée. De tout mon cœur et de toute mon âme, je vous salue, étant unie à vous dans l'alliance de la vie éternelle. Nous sommes cohéritiers de l'héritage incorruptible dans le Fils, qui vit et agit en nous selon sa propre volonté. En qui nous sommes ce que nous sommes, et par qui nous faisons ce qui est fait. À lui nous rendons ce qui est à lui, le glorifiant par ce qui est à lui, au siècle des siècles. Bien que fort éloignés les uns des autres, mon amour s'en trouve pourtant accru envers tous les enfants de lumière, avec des larmes me réjouissant de l'unité de l'esprit avec vous tous, moi qui suis pour vous un frère et un compagnon dans le royaume et la patience de Jésus-Christ, et dans les travaux, les voyages et des souffrances plus abondantes. Mais comme j'abonde dans la souffrance avec Christ, ainsi ma joie par lui et ma consolation en lui s'accroissent aussi. Je n'ai reçu que deux lettres de vous depuis mon départ d'Angleterre. Je suis maintenant à la ville de Waterford, où un bon peuple entre peu à peu dans la bergerie. J'ai été deux semaines à la ville de Dublin, dans le ministère de Christ, travaillant à temps et à contre-temps, et ma souffrance n'y fut pas petite, et je n'avais personne pour porter le joug avec moi dans mes peines, et pourtant je n'étais pas seul, mais le Père était avec moi en puissance, en sagesse et en hardiesse. C'est un mauvais lieu, Dublin, un véritable refuge des méchants. Ayant été poussé par le Seigneur, je l'ai traversé pour venir ici, car notre service ne se trouve que dans les grandes villes et cités. Car en général, la campagne est sans habitants, sauf des bandes d'assassins, de voleurs et de brigands, qui guettent leur proie et en dévorent beaucoup, et pourtant nous en sommes préservés. J'ai rencontré une grande opposition dans cette ville, cinq fois opposée par les autorités, qui sont baptistes, et une fois j'ai été jugé comme vagabond, et une fois interrogé par eux comme jésuite. Mais jusqu'à ce jour, je suis préservé de leurs pièges et de leurs complots. Je marche comme un oiseau parmi les pièges des oiseleurs, et comme une colombe innocente qui n'a pas de compagnon, non, personne à qui je puisse exposer ma cause, sinon le Seigneur mon Dieu seulement. J'ai été à la ville de Kilkenny, à 20 000 d'ici, pendant environ 16 jours, où j'ai adressé un avertissement aux habitants, et ai été deux fois parmi les baptistes. Une fois sur l'ordre du gouverneur de la ville, j'ai été traîné rudement hors de leur assemblée, selon la manière de leur race, mais quelques-uns dans cette ville ont reçu notre témoignage. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis longtemps de mon principal compagnon F. H. Francis Raugill, dont l'amour, dans la même mesure, vous salue avec le mien. Voilà maintenant 4 mois que nous nous sommes séparés à Dublin, et ce que j'ai dit concernant les souffrances et les épreuves, il peut le sceller avec moi. Nous qui avons été compagnons dans la tribulation et dans la patience, et qui sommes maintenant dans la joie et l'allégresse, espérant recevoir le fruit de notre labeur, et voir le travail de nos âmes, afin que nous amenions avec nous les brebis dans la bergerie, et que nous retournions à notre camp avec la victoire de la part de notre Seigneur. Et nous n'avons pas épargné de frapper à droite et à gauche, et victoire, victoire, a été notre mot de guet. Et bien que cette nation soit comme un arbrisseau dans le désert, il y a pourtant une semence et un reste pour l'amour desquels nous sommes envoyés. Depuis que j'ai été envoyé ici, j'ai rarement eu de ces nouvelles F. H. Mais il est à Coq, Quinsal et Bandon, à environ 60 ou 80 000 d'ici, et il m'a écrit de venir de ce côté-là, si j'en avais la liberté, car il y avait du service. Mais je n'ai pas encore eu la liberté du Seigneur de quitter ces régions, car il y a ici une moisson, mais il y a peu d'ouvriers, et une guerre a commencé dans cette nation, et il y en a très peu de notre côté pour la mener. Nos chères sœurs, F. Elizabeth Fletcher et E. Smith sont aussi dans l'Ouest, vaillants pour la vérité, et quelques-uns de Londres sont arrivés à Dublin, qui sont allés vers le nord de cette nation. Dans tout notre travail et notre labeur, qui a doublé sur nous depuis notre séparation, nous avons une récompense dans notre sein, et en cela notre joie sera plus grande d'entendre comment la guerre prospère dans cette nation Angleterre. Écrivez et faites-le nous savoir, afin que nous participions à votre réjouissance, et assurément vous pouvez louer le Dieu vivant pour nous. Il manque grandement de livres dans cette nation, ce qui pourrait être très utile pour répandre la vérité. À présent, je vous laisse, ma chère sœur, choisir la manière qui vous paraît la meilleure pour que quelques livres puissent être envoyés dans ce pays. Voilà ce qui reposait sur moi, de vous en faire souvenir en général, avec mon cher amour. Je désire être salué auprès de tous les enfants de lumière. Edward Burroughs qui Francis Raugela Margaret Felcock, mentionné 1655 à Kingsall, grande ville portuaire, le major Stoding, gouverneur du fort, est bien disposé. J'y ai été fréquemment, mais il est plein d'un savoir corrompu. Tous ces soldats et quelques habitants de la ville écoutent, mais nous prêchons la croix, et ceux qui ne peuvent reconnaître que nous disons la vérité, nous ne leur imposons pas les mains. Abandon, grande ville de marché, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont précieux. La maison la plus en vue de la ville est celle du cornet Cook et de sa femme, qui sont de la vraie semence. Elle était baptiste, et ils l'ont chassée pour hérésie, comme ils disent, c'est une femme noble. Sept amis d'Angleterre sont arrivés à Dublin, deux de Londres, des femmes vaillantes, et quelques autres que je ne connais pas. Quatre d'entre eux sont partis vers le nord. Francis Raugel, depuis que j'ai écrit, une troupe de prêtres est montée et a obtenu un mandat ou un ordre de Dublin, et l'a envoyé au gouverneur de Kingsall, et un autre au colonel Feyé, gouverneur de Cork, et ils ont envoyé plusieurs questions à me poser. L'ordre était général, saisir tous les Quakers et les envoyer à Dublin, à 120 milles d'ici. J'étais à Kingsall, dans l'une des maisons du gouverneur, quand il est arrivé, et le gouverneur de Cork m'a envoyé en privé une lettre pour moi afin que je vienne là-bas. Je suis à présent dans cette ville, mais aucun de ceux à qui la commission a été envoyée ne pense que je m'en mêlerai. Le major Stoding a été exclu de la commission de paix à cause de cela, et il est probable qu'ils feront de même avec le colonel Feyé, mais il est noble, et a dit que les Quakers ont fait plus que tous les prêtres du pays n'ont fait en 100 ans. Beaucoup de gens sont maintenant poussés chaque jour à rendre témoignage contre les prêtres, l'œuvre du Seigneur est grande, gloire à lui à jamais. Elizabeth Fletcher est ici, je n'ai pas eu de nouvelles d'Edward Burroughs ces 6 dernières semaines, j'entends dire qu'ils emprisonnent tout le monde à Dublin, James Lancaster R. Hickok E. Morgan R. Ward et deux amis de Dublin sont en prison à Dublin, d'après l'original, Rutty dans son Histoire des Amis en Irlande P. 84-5, nous apprend qu'Edward Cook de ce lieu bandon était un homme de grande qualité, un cornet de cavalerie dans la propre troupe d'Olivier Cromwell, il embrassa la vérité de tout son cœur, et la conserva, se donna pour servir le Seigneur, et vécut et marcha sous la croix de Jésus-Christ, dans un grand renoncement à soi-même à l'égard du monde, et de sa gloire et de sa grandeur jusqu'au jour de sa mort. Il reposa sa tête en paix avec Dieu, et dans une douce unité avec les amis au cœur sincère. Dans les Stat Papers de Solo Vol. Yves P. 508, est conservée une lettre au secrétaire Solo de Henry Cromwell, gouverneur d'Irlande, datée d'environ cette période, dont on tire l'extrait suivant. Henry Cromwell était le second fils du protecteur, et l'on rapporte qu'il gouverna l'Irlande avec un tel mélange de fermeté, de discernement et d'indulgence tolérante en matière de religion, que le peuple irlandais, sinon satisfait, était du moins tranquille. Astérisque dans cette lettre, il informe le secrétaire Solo, à Londres, que les Quakers commencent à acquérir quelques réputations dans le comté de Cork, leurs réunions étant fréquemment fréquentées par le colonel Feyé, le major Wallis et la plupart des principaux officiers du secteur. Quelques-uns de nos soldats ont été détournés par eux et, entre autres, le cornet de Son Altesse dans sa propre troupe est un Quaker déclaré. Le major Oden, gouverneur de Kingsall, craint « Je suis ce chemin ». 6 février 1655-1656, astérisque Mackintosh, Histoire d'Angleterre, 1657. Le secrétaire Thurlow écrit en réponse « Je remercie votre seigneurie pour la vôtre du 6 ». C'était la première qui mentionnait quoi que ce soit des Quakers en Irlande. Ce sont des gens dont le nombre a beaucoup augmenté ici. 12 février 1655-1656. Enquy Edward Burroughs et Francis Raugela George Fox Lancaster, premier mois, 1656, troisième mot. Très cher bien-aimé, voilà maintenant 3 semaines et quelques jours que nous avons été faits prisonniers dans la ville de Cork, par le haut shérif du comté, sur ordre du conseil et du principal gouvernant en Irlande. L'ordre était daté de Dublin, expressément pour que nous deux soyons amenés, avec des gardes et des escortes, devant le conseil à Dublin, ce qui fut fait en conséquence. Nous avons eu un grand service pendant notre trajet, d'environ 130 milles. Nous sommes arrivés prisonniers à Dublin, et avons été examinés séparément devant Henry Cromwell et son conseil, mais rien ne fut reproché contre nous, et seules des questions vaines furent posées. Et puissante fut la puissance du Seigneur avec nous pour la confusion de nos ennemis. Cette nuit-là, nous fûmes écroués dans la maison du sergent d'armes, où nous avions une grande chambre, et personne n'était empêché de venir à nous. Nous avons envoyé beaucoup d'écrits, et lancé un défi à tous les prêtres de la ville pour qu'ils nous accordent une réunion publique, mais ils ne nous répondirent pas. Nous sommes restés en prison là 6 jours, jusqu'à ce que le conseil fasse un ordre au maire de la ville de nous envoyer promptement en Angleterre, ce qui fut fait en conséquence à la douleur de nos esprits. Nous devons être ainsi séparés si loin des chers petits, qui ont été engendrés dans cette nation, à qui nos âmes souhaitent grâce et amour. Le 2 de ce mois, nous sommes arrivés à Cheste, où nous sommes restés une nuit, et avons entendu parler d'une réunion à Preston, où nous nous sommes hâtés de nous rendre, désirant vivement y être, ce qui fut aussi accompli par la main de notre Dieu. La réunion fut au grand avantage de la vérité, et contre toute attente ou pensée, John Odlan et Alexandre Park se joignirent à nous. Nous allons maintenant vers le nord. Nous avons en vérité accompli un grand service pour le Seigneur en Irlande pendant près de 7 mois, les détails seraient très longs à exposer, mais en bref, une œuvre précieuse a commencé, et une semence a été semée qui ne mourra jamais. J'écrirai plus en détail une autre fois, mais voici cela en hâte. Vraiment, nous tiendrons dans le conseil de notre Dieu, pour être appelés à son service, auquel nous nous sommes entièrement donnés. La chère épouse de Francis Haugill, apprenons-nous, a quitté ce monde, ce qui sera pour lui un léger empêchement pour le moment, pour établir ses enfants et autre chose. Mais en vérité, il s'est entièrement donné à accomplir la volonté de notre Père, à travers de grandes et nombreuses épreuves, dangers et souffrances. Je suis votre cher, Edward Burroughs Francis Haugill d'après l'original, apparemment de la main d'Edward Burroughs. N6 Thomas Law à George Fox le nord de l'Irlande, le 17 du 6e mois 1660 cher et très honorable, j'ai reçu votre lettre avec beaucoup de joie, et les choses ici sont présentement assez calmes. Je suis maintenant dans le nord, où tout est tranquille et paisible, et les réunions s'agrandissent chaque jour. Je suis récemment venu de l'ouest de Cork, Bandon, Limerick et de ces régions, où la persécution a été plus grande depuis ces changements. Les amis ont subi quotidiennement des emprisonnements, étant traînés hors de leur ville, et les réunions étant dispersées à coups et menaces, et par bien d'autres souffrances de leur part. Des réunions entières ont été conduites en prison en plusieurs endroits. À Limerick, ils ont gardé les amis ensemble près de 4 semaines, à Dublin, la plus grande partie d'un quart d'année, et à Cork, ils ont plusieurs fois fait de même. J'y étais il y a peu à une réunion mensuelle, et vers la fin de notre réunion, ils sont venus avec une garde de soldats et ont emmené tous les amis hommes en prison. Ils ont fait de même aux alentours de Waterford et presque dans toutes les parties de la nation. Les amis ont eu de nombreuses épreuves sévères de leur part. En général, tout va bien pour les amis et les réunions sont fraîches et vivantes, une présence bénie est parmi eux. Ils ont en grande partie dépassé leurs souffrances et avec sagesse ont été bien préservés dans leurs diverses réunions. Je crois que beaucoup d'entre eux sont librement disposés à souffrir toutes choses pour l'amour de la vérité. Il y a ici quelques accroissements dernièrement, et plusieurs ont été convaincus depuis ces révolutions. Vers le milieu de la nation, il y a une réunion d'environ 40 personnes, et la plupart ont été convaincus récemment. En ce moment, les choses sont un peu plus calmes. Je ne connais personne en prison sauf ceux qui y sont pour les dîmes. Quant à ce qui me concerne en particulier, cher George Fox, je vais bien. Et la bénédiction du Seigneur et sa pure présence sont avec moi dans mes travaux. Il demeure sur moi de rester dans cette nation, et la parole du Seigneur a souvent couru en moi que vous devez traverser cette tempête avec les amis ici. Je suis véritablement et entièrement abandonné à la volonté de Dieu, et je suis content de souffrir et d'endurer toutes choses pour l'amour du Seigneur. Beaucoup de menaces en divers lieux ont été proférées contre moi, et ils m'ont mis en prison plusieurs fois, mais le chemin a été ouvert pour ma délivrance en peu de temps. Thomas Law, cet ami, qui a été appelé l'apôtre de l'Irlande, en raison de ses premiers et zélés travaux dans ce pays, était un homme d'un don excellent, solide, clair et puissant dans son ministère, élégant dans sa parole, vif et prompt dans son intelligence, et son témoignage était très convaincant. C'est par son ministère que William Penn fut convaincu. William Penn, ayant une importante propriété de son père en Irlande confiée à ses soins, ce qui occasionna sa venue dans le pays. Et ayant appris que Thomas Law devait être à une réunion à Cork, il alla le rencontrer. Thomas Law commença sa déclaration par ces mots mémorables « Il y a une foi qui vainque le monde, et il y a une foi qui est vaincue par le monde », sur quoi il s'étendit avec une grande clarté et énergie. Par le témoignage vivant et puissant de cet homme, qui avait fait quelque impression sur l'esprit de William Penn 10 ans auparavant, il fut alors pleinement convaincu, et ensuite assista constamment aux réunions du peuple appelé Quakers, même au plus fort de la persécution. Histoire des amis en Irlande de Ruty, p. 112 t. Law mourut à Londres, selon notre registre, le 6 du 8e mois 1668, chez Edward Mann, un marchand de bas à l'intérieur de Bishopgate. Il est décrit comme étant d'Oxford. Thomas Law était un professeur à Oxford, qui rejoignit alors les Quakers pour devenir un autre grand digne serviteur du Seigneur. William Penn décrit sa visite à Thomas Law, alors que Thomas était à l'agonie sur son lit de mort, « Je le trouvais prêt à partir. Les amis très émus se tenaient autour de son lit. Quand j'entrai et m'assis sur le bord du lit, Il fut si secoué par la puissance du Seigneur et si submergé par la gloire ravissante de sa présence que cela était merveilleux pour tous les amis. Me prenant par la main, il parla ainsi : Cher cœur, porte ta croix, demeure fidèle à Dieu et porte ton témoignage en ton jour et en ta génération, et Dieu te donnera une couronne éternelle de gloire que personne ne te ravira jamais. Il n'y a pas d'autre chemin. Porte ta croix, demeure fidèle à Dieu. C'est la voie où marchaient les saints hommes d'autrefois, et elle prospérera. Dieu a mis l'immortalité en pleine lumière, et la vie immortelle se ressent dans sa bénédiction. Mon cœur est plein. Ma coupe déborde. Gloire, gloire à son nom à jamais. Amis, gardez vos témoignages. Vivez pour Dieu et il sera avec vous. Ne soyez pas troublés. L'amour de Dieu surmonte mon cœur. N.C.X. William Edmondson à Margaret Fell, Maryborough, le 2 du 6e mois 8e mois 1661. Margaret Fell, concernant les amis ici, j'entends dire que beaucoup sont en prison à Waterford, à Cork et à Limerick. Beaucoup d'amis sont condamnés à de fortes amendes pour s'être réunis. J'entends dire que les amis du Nord jouissent de leur liberté. Il y en a six de notre réunion, détenus prisonniers et condamnés à une amende pour s'être réunis. Tout va bien pour les amis ici, la présence du Seigneur est avec nous, et sa puissance fraîche parmi nous, par laquelle nous avons la force de tout supporter. Mon cher amour va vers vos enfants et vers les amis là-bas. Votre frère selon ma mesure, Will Edmondson, deuxième partie, document illustrant la première discipline, et les témoignages de la société Inc. Les documents présentés dans cette division de l'ouvrage sont presque entièrement d'époque antérieure au registre des réunions établies de la société au sens large, tenues à Londres. On leur trouvera beaucoup d'intérêt et de valeur, montrant le souci ardent et le saint soin de nos premiers amis, dans le premier établissement de la discipline chrétienne de la société. Il est remarquable combien une grande part des sujets de conseil ou de réglementation exposés dans ces premiers documents ont continué jusqu'à ce jour à être reconnus ou maintenus parmi nous comme corps religieux. La sagesse de la vérité, croit-on, fut dès le début recherchée de près dans l'édification de l'édifice, dont le seul vrai fondement, il fut souvent attesté et révérencieusement reconnu être Christ, le chef de l'Église, et son esprit le lien cimentant d'union d'édification, et la seule juste autorité en elle. En certaines matières de réglementation disciplinaire, on observe des variations ou des modifications, comme on pouvait s'y attendre, en comparaison des règlements des temps ultérieurs. Mais le principe directeur de la vérité, croit-on, fut la garantie, pour les premiers Quakers, de ces modifications subséquentes. Les changements, toutefois, furent peu nombreux et relativement faibles, après l'établissement plus général des diverses réunions pour la discipline, y compris celle des amis femmes et celle des ministres et anciens, dans toute la société, vers la fin du XVIIe siècle, ou entre les années 1670 et 1690. Le document intéressant suivant, sur le sujet de notre discipline primitive, est copié d'un ancien manuscrit de l'écriture de Thomas Aldam, trouvé dans la collection de Wormsworth. Comme il ne porte ni date ni signature, il est difficile de parler avec assurance de la période où il fut publié, ou par quel corps ou quelle réunion d'amis. Mais comme l'expression « servir le Commonwealth » y est employée, terme d'État sans doute généralement évité après la restauration des Stuarts, il est probable que le document fut rédigé au temps de l'un des Cromwell, période très ancienne en ce qui concerne les archives disciplinaires de la société. Pour cette raison, l'éditeur le place en premier dans cette partie du volume. Il est dans l'ordre du probable qu'il s'agissait d'un écrit publié par la réunion générale ou annuelle, tenue chez John Crook dans le Bedfordshire en l'année 1657, aux Amis du Nord. Les anciens et les frères envoient aux frères du Nord les choses nécessaires suivantes, auxquelles, si vous, dans la lumière, attendez d'être gardés dans l'obéissance, vous ferez bien. Portez-vous bien. 1. Que les réunions particulières, par tous les enfants de la lumière, soient dûment tenues et observées, là où elles sont déjà établies, chaque premier jour de la semaine, à moins qu'ils ne soient poussés vers d'autres lieux. Et que les réunions générales soient tenues avec ordre et douceur dans la vie de Dieu, un autre jour de la semaine que le premier jour, à moins qu'il n'y ait un mouvement contraire, afin que, dans la lumière et la vie, les réunions soient tenues à la louange de Dieu. 2. Qu'on prenne soin que, lorsque certains sont amenés à la vérité, des réunions se tiennent parmi eux en des lieux qui soient le plus commodes pour tous, sans considération de personne, et qu'on impose les mains à personne à la légère, de peur que la vérité ne souffre. 3. Que si quelqu'un se retire des réunions et marche d'une manière déréglée, certains aillent parler à ceux qui se retirent, pour exhorter et admonester ceux qu'ils trouvent négligés ou déréglés, dans un esprit tendre et doux. Et si, après admonestation, quelques-uns persistent dans ce qui n'est pas bon, qu'ils soient de nouveau admonestés et repris devant deux ou trois témoins, afin que, par la bouche de deux ou trois témoins, toute chose soit établie. Et s'il y persiste encore, que l'affaire soit déclarée à l'Église, et lorsque l'Église les aura repris pour leur marche déréglée, et les aura admonestés dans l'esprit tendre et doux, et qu'ils ne se réforment pas alors que leur nom et les causes, ainsi que ceux qui peuvent justement attester la vérité en cela, et leur réponse, soit envoyée par écrit à quelques-uns que le Seigneur a suscité dans la puissance de son esprit pour être des pères, afin de rassembler ses enfants dans la lumière, afin que la chose soit connue du corps, et qu'avec le consentement. 4. Que lorsque certains sont poussés par le Seigneur à dire la parole du Seigneur dans ses réunions, cela soit fait fidèlement, sans ajouter ni retrancher. Et si, dans de telles réunions, quelque chose et à un moment quelconque, dit par quelqu'un hors de la lumière, par quoi la semence de Dieu vient à être chargée, que la personne ou les personnes en qui la semence de Dieu est chargée parle dans la lumière selon qu'elles en sont poussées du Seigneur, avec douceur et crainte de Dieu à celui-ci, mais que cela se fasse en privé entre les deux ou devant deux ou trois témoins, et non dans les réunions publiques, à moins qu'il n'y ait un mouvement spécial pour le faire ainsi. ***, on verra, par un document ultérieur, combien était pressant le conseil, plus tard de la réunion générale à Londres, contre le fait de juger ou de faire des réflexions sur le ministère en public. 5. Que des collectes soient faites en temps opportun pour les pauvres, qui sont véritablement pauvres, selon qu'on en est poussé conformément à l'ordre, pour le secours des prisonniers et d'autres usages nécessaires selon que le besoin l'exigera, et que de toutes les sommes ainsi recueillies, on tienne compte, afin que tout besoin puisse être pourvu, comme il sera signalé par les surveillants dans chaque réunion. Ainsi qu'aucune fin privée ne soit servie, mais que tout soit amené à la lumière, afin que l'Évangile ne soit pas calomnié. 6. Qu'on prenne soin des familles et des biens de ceux qui sont appelés au ministère, ou qui sont emprisonnés pour l'amour de la vérité, afin qu'aucune créature ne soit perdue faute des choses nécessaires à la créature. 7. Que lorsque certains sont poussés à prendre un frère ou une sœur en mariage, le mariage étant honorable en tout, et le lit sans souillure, cela soit fait connaître aux enfants de la lumière, en particulier à ceux de la réunion dont les parties sont membres, afin que tous, dans la lumière, puissent en rendre témoignage comme étant de Dieu. Et qu'ils soient unis dans le Seigneur et dans sa crainte, en présence de nombreux témoins, selon l'exemple des saints hommes de Dieu dans les Écritures de vérité rapportées, qui ont été écrites pour notre exemple et notre instruction, afin qu'aucun scandale ne retombe sur la vérité et que rien ne soit fait en secret, mais que toute chose soit amenée à la lumière, afin que la vérité triomphe sur toute tromperie, et que ceux qui sont unis dans le Seigneur ne soient pas séparés par l'homme, puisque Dieu les a unis. Qu'il y ait un registre écrit, attestant le jour, le lieu et l'année de ces choses, conservés dans cette réunion dont l'un ou l'autre, ou tous deux sont membres, sous lequel écrit les témoins présents puissent souscrire leur nom, ou autant d'entre eux qu'il conviendra, pour fermer la bouche aux opposants, et pour manifester la vérité à tous ceux qui sont au dehors. 8. Qu'un registre soit tenu dans chaque réunion des naissances des enfants de ceux qui sont membres de cette réunion, et des enterrements des morts, qui meurent dans le Seigneur, lorsqu'ils quittent le corps, et que cela se fasse selon la manière des saints hommes de Dieu, rapportés dans les Écritures de vérité, et non selon les coutumes des païens qui ne connaissent pas Dieu. 9. Que mari et femme habitent ensemble selon la connaissance, comme étant cohéritiers de la grâce de la vie. Que les enfants obéissent à leurs parents dans le Seigneur, et que les parents n'irritent pas leurs enfants, mais les élèvent dans la discipline et la crainte du Seigneur, marchant devant eux comme de bons exemples, dans la gravité et la piété, pourvoyant à des choses honnêtes devant Dieu et devant les hommes. 10. Que les serviteurs obéissent à ceux qui sont leurs maîtres selon la chair, en toutes choses qui sont bonnes, avec simplicité de cœur comme à Christ, non par service rendu sous l'œil, comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec bonne volonté comme au Seigneur et non aux hommes, sachant que tout bien que fait un homme, il recevra le même du Seigneur, qu'il soit esclave ou libre. Et que les maîtres donnent à leurs serviteurs ce qui est juste et équitable, s'abstenant de menaces, sachant que leur maître aussi est dans les cieux, et qu'il n'y a point, auprès de lui, d'acception de personne. 11. Qu'on prenne soin que nul serviteur ne quitte ses maîtres, sinon lorsqu'il voit tous deux clairement dans la lumière qu'il faut le faire, et qu'aucun maître ne renvoie son serviteur, sinon avec le consentement du serviteur. Si quelque maître ou serviteur, selon leur propre volonté, agit autrement, cela doit être jugé avec les amis dans la lumière. 12. Que les nécessités des pauvres, des veuves et des orphelins soient véritablement pourvues, et que ceux qui sont capables de travailler, et ne le font pas, soient admonestés. Et si, après admonestation, ils refusent de travailler, alors qu'ils ne mangent pas. Et que les enfants de ceux qui sont dans le besoin soient mis à un emploi honnête, afin que nul ne soit oisif dans la vigne du Seigneur. 13. Qu'on prenne soin que, lorsque certains sont appelés devant les pouvoirs extérieurs de la nation, l'obéissance au Seigneur soit rendue dans la lumière. 14. That if any are called to serve the Commonwealth in any public service, which is for the public wealth and good, that with cheerfulness it be undertaken, and in faithfulness discharged to God, that terrain pattern an example in the thing that is righteous they may be, to those who are without. Y accent aigu 5. Que tous les amis qui ont des vocations et des métiers s'appliquent à ce qui est bon, avec fidélité et droiture, et qu'ils s'en tiennent à leur oui et à leur non dans toute leur communication. Que tous ceux qui sont endettés envers le monde s'efforcent de s'en acquitter, afin qu'ils ne doivent rien à personne, sinon de s'aimer les uns les autres. 16. Que nul ne médise d'un autre, et que nul ne juge l'un contre l'autre, mais qu'on juge plutôt ceci, que personne ne mette d'obstacle ni d'occasion de chute sur le chemin de son frère. 17. Que nul ne se mêle des affaires d'autrui, mais que chacun porte les fardeaux d'un autre, et ainsi accomplisse la loi du Christ, qu'il soit sincère et sans scandale, et que toutes les choses honnêtes se fassent sans murmure ni dispute, afin qu'il soit irréprochable et sans malice, enfant de Dieu sans reproche, au milieu d'une nation tortueuse et perverse, parmi laquelle il puisse briller comme des lumières dans le monde. 18. Que la modération chrétienne soit pratiquée envers tous les hommes, afin que ceux qui n'obéissent pas à la parole soient gagnés par ceux qui demeurent dans la parole, pour les conduire dans une vie sainte et une conduite pieuse. 19. Que les anciens rétablis par le Saint-Esprit paissent le troupeau de Dieu, en en prenant la surveillance volontiers, non par contrainte, mais d'un esprit disposé, ni comme dominant sur l'héritage de Dieu, mais comme des exemples pour le troupeau du Christ. 20. Que les plus jeunes se soumettent aux plus âgés, oui, que tous soient soumis les uns aux autres, et revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. De l'esprit de vérité aux enfants de lumière, pour marcher dans la lumière, afin que tout soit maintenu, dans l'ordre, dans l'obéissance à Dieu, afin qu'il soit glorifié, lui qui est digne au-dessus de tout, béni à jamais. Amen. Amis bien-aimés, nous ne vous imposons pas ces choses comme une règle ou une forme selon laquelle marcher, mais afin que tous, avec une mesure de la lumière pure et sainte, puissent être guidés, et qu'ainsi, en marchant et en demeurant dans la lumière, ces choses puissent s'accomplir dans l'esprit, non dans la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a, dans ce bref paragraphe conclusif, quelque chose de remarquablement instructif. Le véritable esprit de notre discipline d'Église astérisque, et non sa lettre, y est soutenu, référence étant faite à la seule autorité légitime en la matière, plutôt qu'à quelque sanction ou autorité extérieure. Astérisque, l'éditeur se trompe, l'esprit dont il est question est l'esprit de Dieu, et non l'esprit de leur discipline d'Église, qui devrait être le même, mais qui, malheureusement, ne l'est pas nécessairement, du moins pas à l'époque de l'éditeur, 1840. Le document ancien suivant a été découvert dans un livre de registre d'une réunion mensuelle dans le Hampshire, depuis que le dernier document a été préparé pour l'impression. Il est daté de 1659 et contient des passages de conseils semblables à ceux de l'article précédent, et parfois même dans les mêmes termes, prouvant ainsi qu'un certain avis général astérisque de ce genre avait été émis par quelque instance ou réunion influente de la société, à cette époque ancienne ou antérieurement. Astérisque, l'avis général commun provenait des lettres de George Fox, remplies de bout en bout de directives identiques, voire des mêmes mots. Pour voir l'ensemble de ces directives, les lettres 263 et 264 de George Fox sont incluses ci-dessous. 263, une exhortation à s'en tenir aux anciens principes de vérité. Amis, tenez-vous à une parole, dans toutes vos affaires sans oppression. Et gardez un langage saint, tutoyez chacun, et gardez votre témoignage contre les vaines modes du monde. Et gardez votre témoignage contre les prêtres mercenaires et leurs dîmes et leurs subsistances, et contre les anciennes maisons de messe et leurs réparations, et contre l'union des prêtres et du monde dans les mariages, et votre témoignage contre le serment et les mœurs corrompues du monde. Et contre toute licence, les plaisirs et l'impiété, quels qu'ils soient, et contre toutes les mauvaises voies du monde, les cultes vains et les religions, et tenez-vous debout pour celle de Dieu, et veillez à ce que restitution soit faite par quiconque a fait du tort à quelqu'un. Et que tous les différends soient réglés promptement, afin qu'ils ne se répandent pas au dehors pour corrompre l'esprit des gens, et que tous les bruits soient arrêtés qui tendent à diffamer les uns les autres. Et amis, vivez tous dans la puissance du Seigneur Dieu, et dans sa vérité, sa lumière et sa vie, afin que par elle, vous puissiez tous d'un seul cœur, d'une seule âme et d'un même esprit, garder la domination, et que dans la lumière, la vie, la vérité et la puissance de Dieu, vous exerciez un jugement véritable, la justice et la vérité, la droiture et l'équité dans toutes vos réunions d'hommes et de femmes, sans faveur ni affection envers parents, proches et connaissances, ni acception de personne, car si vous n'agissez pas ainsi, le... Car la puissance de Dieu, la lumière, la vie et la vérité ne font acception de personne, mais veulent la justice, la vérité, la droiture et l'équité, etc. Que la miséricorde couvre le siège du jugement, et que la miséricorde soit mêlée au jugement. Gardez-vous d'une compassion insensée, et si vous n'êtes pas diligent contre toute profanation, le péché, l'iniquité et l'impureté, la licence et la débauche, et tout ce qui déshonore Dieu, alors vous laissez ces choses s'élever sur vous, alors que vous devriez les dominer, les soumettre et les maintenir abaissées par la justice, la vérité et la puissance de Dieu. et dans toutes vos réunions d'hommes et de femmes, que tout se fasse dans l'amour qui édifie le corps, et que rien ne se fasse dans la crêle et la vaine gloire, mais demeurez dans l'unité de l'esprit qui est le lien de la paix. Et que tout se fasse dans la sagesse de Dieu, qui est pure et douce, d'en haut, au-dessus de ce qui est terrestre et d'en bas, sensuel et diabolique. Et prenez garde de faire du tort à qui que ce soit au sujet des mariages, si la chose est juste, par quelque raisonnement terrestre, de peur qu'il n'agisse plus mal. Et ainsi, que tout soit diligent pour le Seigneur Dieu et sa vérité sur la terre, et pour l'héritage d'une vie sans fin, afin que vous puissiez vivre dans cette semence qui est bénie à jamais. Et soyez diligents dans toutes vos réunions, et veillez à placer en apprentissage tous les enfants d'amis, orphelins de père et pauvres, et que toutes les veuves pauvres soient soigneusement prises en charge, afin que rien ne manque parmi vous, alors tout ira bien. Et gardez votre témoignage contre tous les haillons souillés de l'ancien monde, et pour votre fin l'un, la justice de Christ Jésus. Et gardez votre témoignage pour votre liberté en Christ Jésus, et tenez ferme en elle, contre toutes les fausses libertés dans le vieil Adam, et votre liberté dans l'Esprit de Dieu, et dans l'Évangile de Christ Jésus, contre toutes les libertés fausses et relâchées de la chair. Et élevez tous vos enfants dans la crainte du Seigneur, et dans sa nouvelle alliance, Christ Jésus, comme les Juifs élevaient leurs enfants et leurs serviteurs dans l'ancienne alliance, et ainsi vous avertissez vos enfants et vos serviteurs. Et que nul homme, ni personne, ne vive pour soi-même, mais dans cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Et ayez l'œil sur ceux qui viennent épier votre liberté en Christ, et qui rapporteront, hors de vos réunions, des choses afin d'en tirer avantage et de diffamer les gens. Et que chacun recherche le bien des autres, et leur bien-être dans la vérité, et fasse de la condition d'autrui la sienne, et se la garde, comme un père et une mère, à condescendre envers un enfant. Et que tous vivent dans la semence qui porte la bénédiction, et dans la sagesse par laquelle vous pouvez ordonner toute chose à la gloire de Dieu, au-dessus de la mauvaise semence, qui est hors de la vérité. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, en opposition à l'affaire de mariage, proposée à la réunion par quelqu'un, que cet ami ou ses amis le fassent savoir, ce qu'ils ont contre les personnes à ceux qui sont désignés par la réunion pour s'enquérir de la liberté des personnes qui ont présenté leurs intentions à la réunion. Et que ces amis, qui ont l'intention de se marier, la présentent d'abord devant les hommes et les femmes de la réunion mensuelle à laquelle ils appartiennent, et s'assure que tout est clair avant que l'affaire ne soit portée à la réunion des 2 semaines. Et si quelque différence surgit, soit au sujet des mariages, soit dans tout autre cas, dans les réunions des 2 semaines, que l'affaire soit aussitôt renvoyée à 6 amis, pour entendre la question un autre jour, ou bien pour qu'ils aillent et la tranchent sur le champ, et qu'on ne la discute pas dans la réunion publique. Et si quelque legs est laissé par un ami décédé, pour un usage particulier, tel que placer des apprentis et élever les enfants pauvres d'amis, que la dite somme soit tenue à part, comme un fonds pour le dit usage, et qu'on en tienne un compte particulier, et que les réunions trimestrielles ou des 6 semaines veillent à ce que les dites sommes soient affectées aux usages susdits. Et si une partie du capital ainsi donné est, à quelque moment, utilisée à un autre usage, qu'elle soit alors reconstituée par la réunion des amis en général. Et bien que l'argent soit laissé ou donné à quelque ami particulier pour l'usage susdit, il doit néanmoins être versé à 2 ou 3 personnes, que la réunion trimestrielle ou des 6 semaines désignera pour recevoir cet argent, afin que la réunion puisse en ordonner et disposer au mieux, et selon l'usage prévu. Et que les amis demeurent dans leur témoignage contre les vaines modes du monde, et toute licence et impureté, quelle qu'elle soit, et contre toute beuverie profane et oisive boisson, et le fait de prendre du tabac dans les cafés et les tavernes, ce qui est d'une mauvaise odeur, et contre toute crêle et toute contention. Et que quelques amis soient désignés à chaque réunion pour garder les portes, afin de contenir les garçons grossiers et les esprits indisciplinés, afin que les réunions se tiennent avec civilité et dans le calme. Et si un ami a quelque chose contre un autre, qu'il ne l'amasse pas jusqu'au moment de son mariage, puis ne le jette publiquement contre lui, mais qu'il en parle aussitôt à l'ami, ainsi qu'à ceux que la réunion a désignés pour s'assurer de sa liberté, etc. Afin que les choses ne soient pas trop différées, dans la réunion des 2 semaines, au sujet des mariages, mais qu'elle puisse recevoir réponse en peu de temps, afin que l'affaire soit tranchée. Et arrêtez tous les mauvais bruits, car vous ne répandrez point de faux bruits sur mon peuple, dit le Seigneur, et rendez justice à cela sur le champ, afin qu'aucun homme ni aucune femme ne soit souillé ou diffamé par de telles choses. George Fox lisait ceci dans la réunion des hommes et des femmes dans la crainte du Seigneur, aussi souvent que vous en verrez l'occasion, et consignez-le dans votre livre, 264. Extrait supplémentaire d'autres épîtres de George Fox, de dates antérieures et postérieures, traitant plus largement des choses contenues dans l'écrit précédent, avec quelques matières nouvelles, recommandées par lui aux amis, de temps à autre, afin qu'ils en prennent connaissance dans leurs réunions trimestrielles et autres. La communion des amis doit être dans l'esprit, et tous les amis doivent se connaître les uns les autres dans l'esprit et la puissance de Dieu. Et dans toutes les réunions du comté, on peut en désigner deux ou trois pour aller aux réunions trimestrielles et se donner avis les uns aux autres, s'il y en a qui ne marchent pas dans la vérité, après en avoir été convaincus, et qui ensuite ont quitté la vérité et ont ainsi déshonoré Dieu. Et de même, si certains qui professent la vérité suivent les plaisirs, l'ivrognerie, les jeux, ou ne sont pas fidèles dans leurs occupations et leurs affaires, ni honnêtes ni justes mais s'endettent et portent ainsi un scandale sur la vérité, les amis peuvent en avertir la réunion trimestrielle s'il y en a de telles, et certains peuvent être chargés d'aller les exhorter et de rapporter leurs réponses à la prochaine réunion trimestrielle. Et ainsi interroger et rechercher tous ceux qui ne vivent pas comme cèdent à la vérité de l'Évangile, et pourtant la professent, afin qu'ils puissent tous y marcher autant qu'en parler, car nul n'en a la consolation céleste sinon ceux qui y marchent, car tous les beaux parleurs du Christ et de son Évangile, qui ne marchent pas en lui, le déshonorent. Et jugez et condamnez toute impureté et toute licence dans toutes vos réunions, avec la lumière, la puissance et l'Esprit du Christ, afin que rien ne règne parmi vous, sinon ce qui glorifie Dieu et le Christ. Et avertissez tous ceux qui sont négligents et paresseux, afin qu'ils soient diligents dans la vérité et dans le service de Dieu, et qu'ils produisent pour Dieu des fruits célestes, afin qu'ils aient à cœur les bonnes œuvres de Dieu et les fassent en croyant en son Fils, et le montrent dans leur conduite, et qu'ils renient le diable et ses mauvaises œuvres, et ne les fassent pas. Et recherchez ceux qui sont perdus, ou chassés loin de la vérité dans le sombre désert du diable, par sa puissance ténébreuse. Recherchez-les de nouveau par la vérité, et ramenez-les à Dieu de nouveau, par la vérité et la puissance de Dieu. Et veillez à ce que tous ceux qui viennent parmi les amis et professent la vérité s'en tiennent au oui et au non, dans leurs affaires et leurs communications, dans la justice et l'équité, et non dans l'oppression. Et que dans toutes les réunions mensuelles, il y ait une enquête pour savoir si certains qui professent la vérité se sont écartés du langage pur, à savoir tutoyer chacun, s'ils maintiennent le langage de Dieu et du Christ, que les saints prophètes et apôtres ont employé, au-dessus de toutes les paroles flatteuses du monde. Et amis, mon désir est que vous soyez tous gardés dans la puissance du Seigneur, et dans sa semence éternelle, et ainsi dans l'ordre de l'Évangile, et dans le gouvernement de Christ Jésus, dont l'accroissement n'a point de fin. Et que vous mainteniez votre ancien témoignage dans la puissance et l'Esprit de Dieu contre les dîmes, et que vous mainteniez votre ancien témoignage dans une vie sincère pour Christ, votre souverain sacrificateur, contre les prêtres mercenaires et leurs vieux temples, manifestant que vous êtes les temples de Dieu. Et qu'il soit fait enquête au sujet de tous ceux, parmi les amis qui paient les dîmes, ce qui rend vain le témoignage et les souffrances de nos frères, qui ont souffert beaucoup d'entre eux jusqu'à la mort, par quoi de nombreuses veuves et de nombreux orphelins ont été laissés, et ce qui est contraire à la doctrine des apôtres, et à la doctrine des martyrs, et contraire à la doctrine des justes dans le présent siècle, tout cela devant être examiné, et ces personnes devant être exhortées à la fidélité sur ce point. Et que vous mainteniez votre ancien témoignage pour l'Église qui est en Dieu, les membres vivants, dont le Christ, l'homme spirituel, est la sainte tête, et votre rocher et fondement céleste. Concernant le mariage, et tous ceux qui se marient par les prêtres, dont certains ont les mains rudes d'aisée et des poings de méchanceté, et qui ont trempé leurs mains dans le sang de nos frères en Nouvelle-Angleterre, et qui ont été la cause du bannissement de quelques-uns de nos frères, et ont pillé tant de leurs biens, les jetant en prison et en gardant tant d'entre eux en prison jusqu'à ce jour. Tous ceux qui vont vers eux pour femme ou mari doivent venir au jugement et à la condamnation d'eux-mêmes, et de cet esprit qui les a conduits aux prêtres pour les marier. Car de la Genèse à l'Apocalypse, on ne lit jamais que des prêtres aient marié qui que ce soit, c'est une ordonnance de Dieu, et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et autrefois, ils se prenaient l'un l'autre dans les assemblées des justes, quand toutes choses étaient claires, que toutes ces choses soient donc examinées et portées à la réunion trimestrielle, et ensuite, que certains soient chargés d'aller vers eux, et de rapporter ce qu'ils disent à votre prochaine réunion. Et que tout cela se fasse avant qu'il, ou l'un d'eux, soit déclaré semblable à des païens, ou qu'on écrive contre eux, qu'ils soient avertis trois ou quatre fois, afin qu'ils aient l'ordre de l'Évangile, et que, si possible, ils puissent revenir à ce qui les avait d'abord convaincus, et se repentir et condamner leurs actes injustes. Afin que vous ne laissiez pas, si possible, un seul sabot en Égypte. Or, vous tous, amis, qui avez connu la puissance de Dieu et croyez en la lumière de Jésus-Christ, qui est votre souverain sacrificateur, établi plus haut que les cieux, venez à le connaître comme votre maître et à l'entendre en toutes choses, afin que Dieu opère toutes vos œuvres en vous et pour vous. Et tous ces prétendus amis ou amis qui sont allés au prêtre pour s'y faire marier, ou qui ont été entraînés à le faire par leurs proches, sous prétexte de faire garantir leurs biens à leurs héritiers, ceux-là se sont écartés de la lumière du Christ en eux-mêmes. Ils ont étouffé les mouvements de l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur, se sont défiés de Dieu, et ont laissé entrer en eux un esprit d'incrédulité. Et par cela ils donnent au monde sujet de se glorifier sur eux et sur les amis, étant les prêtres que le monde dise qu'ils sont des hypocrites. Ils parlent du Dieu vivant, mais on voit que le monde est leur Dieu, et que le prêtre doit faire leur besogne pour préserver leur patrimoine. Ceux-là se défient du Dieu vivant au sujet des choses extérieures, alors qu'autrefois ils criaient contre elles, et contre leur enseignement, et contre leur manière de marier et de baptiser, mais maintenant ils peuvent venir vers eux pour les marier afin de sauver leur terre, et pour fuir les souffrances. Et ainsi ils manifestent leur hypocrisie. C'est pourquoi tous ceux qui sont allés au prêtre pour être mariés par lui doivent venir au témoignage de Dieu dans leur conscience, par lequel ils pourront condamner cet esprit qui les a conduits à aller se faire marier par eux. Car ceux-là sont bien avancés dans l'égarement, qui peuvent s'approcher d'un prêtre au point d'entendre ses prières pour de l'argent, et de participer à ses œuvres. Ceux-là se sont retournés contre la lumière, ont étouffé l'esprit et abusé de la puissance qui se serait levée en eux contre ces choses. Et dans leurs apostasies, ils ont pu crier que la puissance de Dieu n'est pas parmi les amis comme elle l'était au commencement, alors qu'ils en ont abusé en eux-mêmes, ont attristé l'Esprit du Seigneur et les amis qui vivent dans l'Esprit. Car ce n'est ni l'œuvre des évêques ni celle des prêtres de marier les gens, et on ne le voit pas, et l'on ne lit nulle part dans toute l'Écriture sainte que prêtre ou évêque ait marié quelqu'un, mais c'est l'œuvre de Dieu et son ordonnance, car ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Et le mariage est honorable en toutes choses, le lit étant sans souillure. Ils se prenaient l'un l'autre dans les assemblées des justes, des saints et des consacrés de Dieu, qui étaient de la semence des justes. Cette pratique est maintenant suivie parmi le peuple de Dieu, appelé Quakers, qui est de la semence et de la génération des justes, le peuple élu de Dieu. Et vous pouvez aussi lire comment Jacob, qui était de la semence des justes, prit sa femme dans l'assemblée, dans la maison de Laban, qui rassembla le peuple lorsqu'il la prit, l'ayant déclaré auparavant, et toutes les parties furent satisfaites. Et Jacob était l'aimé de Dieu, qui prit sa femme parmi les meilleures, son père et sa mère ne voulaient pas qu'il soit attelé d'un joug inégal, comme Ésaü l'avait été auparavant. Et vous pouvez aussi lire le mariage d'Isaac, en qui la semence bénie fut appelée, comme l'apôtre l'a dit, « C'est en Isaac que sera appelée ta postérité. Et combien merveilleusement le Seigneur y pourvu. » Voyez Gènes 24 et 25. Et lisez aussi comment Booz prit pour femme Ruth après que les deux côtés furent satisfaits dans l'assemblée du peuple et des anciens, et comment il le déclara aux anciens, « Vous êtes témoins aujourd'hui que je prends Ruth pour femme », et ils dirent, « Nous en sommes témoins ». Et de ce Booz vint la lignée du Christ. Car Booz engendra Obd, Obd engendra Jessé, et Jessé engendra David. Et Dieu commanda aussi à Ésaïe, le prophète qui prophétisa la naissance, les souffrances et la mort du Christ, lorsqu'il devait aller vers la prophétesse de prendre des témoins et de l'écrire sur un rouleau, et tel fut le commandement de Dieu, et il était de la semence des justes. De même les enfants d'Israël, lorsqu'ils furent emmenés en captivité, quand quelqu'un se mariait et que toutes choses étaient claires de part et d'autre, ils se prenaient l'un l'autre selon la loi de Moïse. Par exemple, voyez Tobie. Et Christ Jésus alla aussi à des noces à Cana en Galilée, lui qui mit fin au premier sacerdoce, lui qui est le prêtre éternel. Il y alla avec ses disciples et la mère de Jésus, où l'on voit clairement qu'il y avait réunion et assemblée de gens. Et le mariage étant l'ordonnance de Dieu et son union, ici le Christ le reconnaît, car c'était l'union de Dieu avant la chute, et le don de Dieu avant la chute, et il en est ainsi dans la restauration hors de la chute par Christ Jésus. Ceux qui sont entrés dans l'Esprit et la puissance de Dieu savent que, dans la restauration, c'est de nouveau l'union de Dieu, et ce que Dieu unit, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi le mariage était une figure du Christ et de son Église, comme l'apôtre l'a montré dans l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi il ne devait pas être attelé d'un joug inégal, les croyants avec les incrédules. La loi de Dieu l'interdisait, ils ne devaient pas donner leurs fils et leurs filles aux païens, ni se marier avec eux. Car cela attrista le Seigneur dans l'Ancien Monde, et amena la destruction sur ces mauvais mariages. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et qu'ils prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent, et qu'ils corrompirent la terre et la remplirent de violence. Pourtant, les mariages des hommes saints de Dieu ne furent jamais jugés par Dieu dans l'Ancien Monde, ni ceux de Seth, de Lamech, de Mahalalil, de Mathusalem, de Noé, d'Abraham, d'Isaac ni de Jacob. Ainsi, nul avant la loi, ni dans la loi, ni au temps de l'Évangile, parmi ceux qui marchaient dans la puissance et l'Esprit du Seigneur et connaissaient l'union de Dieu, n'eut des mariages jugés par le Seigneur, lui qui rassemble l'homme et la femme. Mais ceux qui se mêlèrent aux païens et aux incrédules, et suivirent une chair étrangère, se détournèrent de l'Esprit, perdirent la filiation, par eux la terre fut corrompue et remplie de violence, et cela ne pouvait connaître l'union de Dieu, puisqu'ils s'étaient détournés de l'Esprit, et de la loi et de l'Évangile. et ceux qui s'éloignent de l'esprit par lequel ils ont été sanctifiés et conduits à la filiation se mêlent aux païens et aux incrédules, suivent une chair étrangère et corrompent la leur. Et ceux qui se marient avec des incrédules et des païens agissent contre la loi de Dieu, l'attristent et attristent leurs parents justes. Ainsi le mariage est la sainte ordonnance de Dieu, et le Christ, qui vient rétablir toutes choses à nouveau à leur place, a dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et il ramène cela au commencement, comment Dieu les fit mâle et femelle. » Ainsi dans la restauration à l'image de Dieu et dans la sanctification, ils sont ramenés à l'union d'un mâle avec une femelle de nouveau, non pour qu'un homme ait beaucoup de femmes à la fois, Dieu n'en a pas fait plusieurs pour lui, mais dans la chute hors de la justice de Dieu et de son image, là ils s'assemblent comme des bêtes, un homme et plusieurs femmes. Là les hommes unissent et séparent, mais au commencement il n'en était pas ainsi, dit le Christ, l'homme céleste, le second Adam, car Dieu les fit mâle et femelle, et ce qu'il a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi Dieu unit par son esprit et sa puissance, car il est esprit, et c'est une union céleste et spirituelle, et ce que Dieu unit ne suive pas une chair étrangère, mais l'esprit de Dieu, et un tel mariage est sanctifié par l'esprit et par le Seigneur, et cela connaissent son ordonnance céleste. C'est ce mariage que le Christ reconnaît, établit et encourage, lui qui est l'Alliance et l'Esprit vivifiant. Ainsi Dieu, qui est Esprit, unit par son Esprit sa puissance et sa lumière, cette union est dans l'Alliance de Dieu. Tous ces mariages sont honorables en toutes choses car leur lit n'est pas souillé, mais là où le lit est souillé, ce mariage n'est pas honorable. Et tous ceux qui interdisent le mariage sont dans les doctrines des démons, et ceux qui sont dans la doctrine des démons sont hors de la vérité, laquelle détruit la création, et détruit les uns d'une manière et les autres d'une autre, ceux qui sont sous sa puissance et son commandement loin de la vérité. Mais ceux qui obéissent à la vérité, qui obéissent au Christ et qui obéissent à Dieu, sont au-dessus de lui et de sa doctrine, au-dessus du lit souillé et de la chair étrangère, et l'Esprit leur donne l'intelligence pour connaître Dieu et son union par son Esprit, lui qui est béni à jamais. Or, si quelqu'un devait dire qu'Adam prit sa femme seule sans témoin, et ainsi se jeter dans les œuvres des ténèbres, et aller ensemble dans l'obscurité, contrairement à la semence juste et à la sainte génération, ceux-là sont jugés par la sainte semence et par ceux qui sont dans la sainte vie et la loi de Dieu, et condamnés par la lumière de Christ Jésus. Quant à Adam prenant sa femme seule, c'était avant qu'il y eût des témoins. Mais il y eut entre eux une forme de paroles avant qu'ils n'aillent ensemble, ou qu'il la connût, comme suit, et quand le Seigneur Dieu amena la femme à Adam, Adam dit au Seigneur, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair, elle sera appelée femme parce qu'elle a été tirée de l'homme et ils seront une seule chair. » Mais cette forme de parole d'Adam et son fait ne sont rien pour ceux qui font les œuvres des ténèbres et s'assemblent dans l'obscurité. Car après que la terre fut peuplée, vous pouvez lire comment les générations des justes se prenaient l'un l'autre dans les assemblées des justes, et cela a été consigné devant témoins. Ainsi tous ceux qui se marient par les prêtres, ou se marient selon le monde, qui sont des incrédules, s'éloignent de la puissance et de l'Esprit de Dieu, et de son union, et transgressent la loi de Dieu dans leur mariage, lui qui a interdit de s'unir aux incrédules. C'est pourquoi ils sont jugés et condamnés par la lumière de Christ Jésus, et doivent passer par la condamnation et le jugement. Car la véritable union dans le mariage est l'œuvre du Seigneur seul, et non celle des prêtres ou des magistrats, car c'est une ordonnance de Dieu et non de l'homme. Et par conséquent les amis ne peuvent consentir à ce qu'ils les unissent, car nous ne marions personne, c'est l'œuvre du Seigneur, et nous ne sommes que témoins. Toutefois, si un ami, par délicatesse, désire que le magistrat en ait connaissance, après que le mariage a été célébré dans une réunion publique d'amis et d'autres, selon le saint ordre et la pratique des amis dans la vérité à travers le monde, et selon la manière des saints hommes et femmes de Dieu d'autrefois, il peut aller emporter une copie du certificat au magistrat, les amis sont laissés libres sur ce point. Mais que des prêtres ou des magistrats marient ou unissent qui que ce soit dans ce lien, ce n'est pas selon l'Écriture, et notre témoignage et notre pratique ont toujours été contre cela. C'était l'œuvre de Dieu avant la chute, et ce n'est que l'œuvre de Dieu dans la restauration. Que nul ne s'unisse de façon désordonnée dans le mariage, contrairement à la pratique des saints hommes de Dieu, qui le déclaraient dans les assemblées des justes lorsqu'ils se prenaient l'un l'autre, toutes choses étant claires, et tous deux étant libres de tout autre quant au mariage. Et lorsque certains se prennent l'un l'autre en mariage, qu'il n'y ait pas moins d'une douzaine d'amis et de parents présents, selon votre ordre antérieur, après avoir d'abord informé la réunion des hommes, et après qu'ils ont obtenu clarté et unité avec elle, et alors cela pourra être consigné dans un livre. Et si quelqu'un marche à l'encontre de l'ordre de vérité en cela, que certains soient désignés pour leur parler, et en donner avis à la prochaine réunion. Et toutes les veuves qui ont des enfants, et ont l'intention de se remarier, qu'on s'enquière de ce qu'elle a fait pour ses enfants s'il n'y a pas eu de testament, alors qu'une part du bien de son défunt mari soit assignée aux enfants, de façon équitable et selon la vérité, et tout ce qu'ils peuvent faire de plus ensuite qu'ils le fassent aussi. Et lorsqu'il y a eu un testament, que ses legs et parts soient améliorés et garantis, avant leur mariage pour les enfants du défunt, avec tout ce qu'ils peuvent faire de plus pour eux. Et quand ces choses sont faites, qu'elles soient consignées dans un livre à la prochaine réunion trimestrielle. Et tous les hommes qui courent après les femmes, de femme en femme, et aussi les femmes dont les affections se portent parfois vers un homme, puis bientôt vers un autre, et qui s'entretiennent ainsi mutuellement dans l'affection, et attirent ainsi l'affection l'une de l'autre, puis après quelque temps se quittent et vont vers d'autres et font alors les mêmes choses là aussi, ces agissements ressemblent davantage à Sodome qu'aux saints, et ne procèdent pas du mouvement ni de l'union de Dieu, là où ils ne doivent pas être séparés. Car le mariage est l'ordonnance de Dieu, et le commandement de Dieu de l'un envers l'autre, et en cela se ressent la puissance de Dieu. Et si certains s'unissent par le mariage après l'avoir déclaré dans les réunions des amis, si les magistrats les jettent en prison parce qu'ils ne sont pas mariés selon la loi nationale ou par un prêtre, tous les amis hommes et amis femmes de la réunion, ou 12 d'entre eux peuvent apposer leur signature à un écrit et l'envoyer au juge, cela étant fait dans la vérité et la justice, et selon les vraies écritures de vérité. Comme Booz déclara sa prise de Ruth à la porte de la ville, et Jacob, lorsqu'il se maria, Laban fit venir ses proches, et d'autres exemples, vous les verrez dans les Écritures, ils se marièrent sans anneau ni prêtre pour les marier. Or, nul homme ne doit parler à une femme au sujet du mariage avant d'avoir parlé à son père et à sa mère, et d'avoir leur consentement. Et si elle n'a ni père ni mère, mais des tuteurs et des administrateurs, alors ils doivent leur parler, si elle est mineure, afin d'avoir leur consentement, et procéder ainsi comme le fit le serviteur d'Abraham au sujet de la femme d'Isaac. Et vous devez veiller à ce que toutes les veuves fassent provision pour leurs enfants avant d'épouser un autre, selon la vérité et la justice. Et vous devez veiller à ce que chaque homme et chaque femme soient libres de tout empêchement avec quelque autre femme ou homme avant de se marier. Et s'ils ont été fiancés, vous devez avoir un certificat, signé par la personne avec laquelle ils ont été engagés, les libérant afin que tout se fasse dans la paix, l'unité et la justice, selon la vérité qui est en chaque homme et chaque femme. Et si les proches du jeune homme ou de la jeune femme sont du monde, ils doivent avoir leur consentement et un certificat de leur part. Et si l'homme ou la femme vient d'outre-mer ou d'un autre pays, vous devez avoir un certificat des réunions d'hommes et de femmes là-bas sur la manière dont ils ont vécu et sur le fait qu'ils sont libres de toute autre personne par quelque engagement, alliance ou contrat au sujet du mariage. Et s'ils ne sont pas libres, ils doivent répondre à cela et être libérés par un certificat signé de leurs mains avant d'aller plus loin. Et si un homme devait souiller une femme, il doit l'épouser, fût-elle mendiante, quand bien même il serait riche en biens terrestres, car il doit accomplir la loi de Dieu. La loi de Dieu commande qu'il l'épouse, qu'il condamne son acte et qu'il mette en évidence la vérité de Dieu. Mais de tels mariages, où le lit est souillé, nous ne les introduisons pas dans nos réunions d'hommes et de femmes. Mais certains amis, si une telle chose arrive, rédigent un certificat, et ils y apposent leur signature, déclarant qu'ils vivront fidèlement ensemble comme mari et femme, et qu'ils accompliront la loi de Dieu. Et j'écris ceci, au cas où une telle chose arriverait jamais, mais j'espère que les amis seront prudents, et demeureront dans la crainte du Seigneur, afin qu'ils aient de l'estime pour la vérité du Seigneur, et pour leur propre corps, et pour le mariage honorable, où le lit est sans souillure. Et lorsqu'un mariage doit être proposé, qu'il soit d'abord présenté à la réunion des femmes. Et après qu'ils y ont déclaré, si elles savent quelque chose au sujet de l'homme ou de la femme qui ne devrait pas aller jusqu'à la réunion des hommes, alors que 2 ou 3 femmes aillent à la réunion des hommes, afin que certains hommes et femmes aient une réunion distincte à ce sujet, et qu'ils y mettent fin avant que cela n'arrive à la réunion des hommes, et s'il n'y a pas une telle occasion d'une telle réunion, que 2 ou 3 femmes les accompagnent à la réunion des hommes. Et ainsi, après que les amis ont pris leurs noms et lieux de résidence, que 2 femmes de la réunion des femmes soient nommées, et 2 hommes de la réunion des hommes, afin que si quelqu'un a quelque chose à dire contre le couple avant la prochaine réunion, il puisse leur en parler, et si quelque chose apparaissait, ils puissent y mettre fin avant de venir à la réunion. Et s'il n'y a rien, lorsqu'ils reviennent une seconde fois à la réunion des femmes, la femme peut les accompagner vers les hommes et témoigner qu'elles ne connaissent rien contre leur démarche. Et de même, les hommes désignés pour s'enquérir feront un rapport semblable, et que l'homme et la femme paraissent toujours ensemble lorsqu'ils présentent leurs intentions de mariage. Alors la chose est laissée aux hommes pour donner leur jugement et leur avis au couple qui doit se marier, toute chose étant claire, et rien n'apparaissant au contraire, et leur père et mère ou tuteur ou surveillant étant satisfaits, ils peuvent alors avoir la liberté de fixer une réunion où il leur plaît, dans quelque lieu public de réunion où leurs proches et leurs amis peuvent être présents, et d'y avoir un certificat préparé et rédigé avec le jour du mois, le lieu et l'année, indiquant que tel couple s'est pris l'un l'autre en présence de Dieu. Et toute chose étant trouvée claire, selon la loi de Dieu et la pratique des saints hommes, consignée dans les Écritures de vérité, ils vivront ensemble dans un mariage chrétien et honorable, selon l'ordonnance de Dieu et son union, comme compagnons d'aide aussi longtemps qu'ils vivront. Et si un homme ou une femme vient dans notre pays, il doit apporter un certificat de la réunion des hommes et des femmes à laquelle il appartient, là où il prend sa femme ou son mari. Et nul homme ni nulle femme ne doit être autorisé à poursuivre la démarche de mariage s'ils sont engagés ou empêtrés avec quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Concernant l'ordre de l'Évangile, chers amis, si quelque différend survient entre amis et amis, qu'ils se parlent l'un à l'autre, et si l'un ne veut pas entendre, qu'ils prennent deux ou trois de l'assemblée à laquelle ils appartiennent, afin qu'ils y mettent fin s'ils le peuvent. Et s'ils ne peuvent y mettre fin, alors cela peut être porté devant la réunion mensuelle. Et si cela ne peut y être terminé, alors cela peut être porté à la réunion trimestrielle, et là, qu'on le soumette à une demi-douzaine d'amis, afin qu'ils y mettent fin, pour que leur réunion demeure tranquille. Ou bien ceux qui sont en différend peuvent choisir trois amis, et les amis peuvent en choisir trois autres pour les y joindre, et qu'ils s'en remettent à leur jugement, car il est peu de personnes qui aiment la quiétude et la paix, qui voudront voir leur nom porté devant une réunion mensuelle ou trimestrielle, et résonner à travers le pays, lorsqu'ils sont en querelle, mais elles s'efforceront plutôt d'y mettre fin entre elles ou dans leur propre réunion, avant d'en venir à la réunion mensuelle. Et si des différends sont portés à la réunion mensuelle ou trimestrielle, qu'elles soient d'hommes ou de femmes, après les avoir entendus l'un après l'autre, et n'en laissant parler qu'un à la fois, savez-vous de s'ils s'en remettront à votre jugement, et s'ils s'en remettent à votre jugement, qu'une demi-douzaine d'amis y mettent fin définitivement. Mais s'ils ne s'en remettent pas à votre jugement, ils ne sont pas aptes à l'y porter. Et si un frère ou une sœur entend quelque rapport au sujet d'un frère ou d'une sœur, qu'il ou elle aille vers la personne concernée, et vérifie la vérité du rapport, et si c'est vrai, que la chose soit jugée, si c'est faux, qu'il ou elle aille alors vers celui ou celle qui l'a rapporté, et que celui-ci ou celle-ci soit jugé eux. Et si quelqu'un le rapporte de seconde ou troisième main, sans aller vers la personne sur qui porte le rapport, que celui-là soit amené au jugement, car tu ne susciteras ni ne souffriras qu'un faux rapport repose sur mon peuple, dit le Seigneur, car ils doivent être saints, comme il est saint et juste comme il est juste. À présent, concernant l'ordre de l'Évangile, bien que la doctrine de Jésus-Christ exige de son peuple qu'il admoneste un frère ou une sœur deux fois avant d'en informer l'Église, cela ne limite personne à décider d'attendre plus longtemps avant d'en informer l'Église, mais cela doit plutôt être un minimum de deux admonestations avant de le dire à l'Église. Et il est demandé à tous que, avant de se plaindre publiquement, ils attendent dans la puissance de Dieu pour sentir s'ils requièrent deux autres choses à dire ou à faire envers leurs frères ou sœurs, avant de l'exposer à l'Église, que ceci soit considéré avec poids. Et de plus, lorsque l'Église en est informée, et que la personne est admonestée par l'Église encore et encore, et qu'elle demeure néanmoins insensible et sans réconciliation, que le jugement final ne soit pas prononcé contre elle avant que chacun de la réunion ait éclairci sa conscience, afin que si quelque chose pèse sur quelqu'un pour aller encore visiter un tel transgresseur, il puisse se dégager, afin que, si possible, la personne soit atteinte et sauvée. Et après que tout soit quitte du sang d'un tel, que le jugement des amis, dans la puissance de Dieu, soit prononcé contre lui ou elle, selon l'impulsion reçue pour l'honneur et la gloire du Seigneur, afin qu'aucun opprobre ne vienne sur le saint nom de Dieu, sa vérité et son peuple, ni n'y demeure. Et tous ceux qui voient leur frère ou leur sœur dans une transgression, qu'ils n'aillent pas, dans un esprit rude, léger ou de reproche, le reprendre ou l'admonester, mais dans la puissance du Seigneur et l'esprit de l'agneau, et dans la sagesse et l'amour de la vérité qui souffre de cela pour admonester un tel fautif. Ainsi, l'âme d'un tel frère ou d'une telle sœur pourra être atteinte en temps opportun et efficacement, et vaincue, et ils auront sujet de bénir pour cela le nom du Seigneur, et ainsi une bénédiction pourra être rendue dans le sein de ce frère ou de cette sœur fidèle et tendre qui les a admonestés, et qu'il soit connu de tous que nous n'en rejetons aucun du milieu de nous. Car s'ils s'éloignent de la lumière, de l'esprit et de la puissance dans lesquels se trouve notre unité, ils se rejettent eux-mêmes, et il a été notre manière de les admonester, afin qu'ils puissent revenir à cet esprit et à cette lumière de Dieu dont ils se sont éloignés, et revenir ainsi dans l'unité. Car notre communion subsiste dans la lumière que le monde est et dans l'esprit que le monde attriste, irrite et étouffe, et s'ils ne veulent pas entendre nos admonestations, comme dit plus haut, la lumière les condamne, et alors le témoignage de la vérité s'élève contre eux. Et aucune condamnation ne doit aller plus loin que la transgression n'est connue, et s'il ou elle revient et présente un écrit de condamnation contre lui ou elle-même, ce qui est plus souhaitable que de le faire nous-mêmes, c'est un témoignage de sa repentance et de sa résurrection devant Dieu, son peuple et le monde entier, comme David, psaume 51, lorsque Nathan vint l'admonester. et qu'aucun témoignage, sous forme de condamnation, ne soit publié contre aucun homme ou femme, quel que soit le crime qu'il ou elle ait commis, avant admonestation, et jusqu'à ce qu'ils aient eu l'ordre de l'Évangile, selon la doctrine de Christ. Et ainsi garder l'ordre d'Église de l'Évangile, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a commandé, c'est-à-dire, si ton frère t'offense, parle-lui entre toi et lui, et s'il ne veut pas entendre, prends-en deux ou trois. S'il n'écoute pas deux ou trois, alors dis-le à l'Église, etc. Et si quelqu'un tombe, admonestez-le avec douceur dans la sagesse de Dieu, afin que vous puissiez le préserver et l'amener à la condamnation, et le préserver de maux ultérieurs, ce qui est bon pourvu qu'il ne s'y précipite pas. Et il est bon que tous eussent envers eux de la douce sagesse de Dieu dans leurs tentations et leurs actions condamnables, et qu'ils emploient la douceur pour les amener à condamner leur mal, et à faire aller leur condamnation aussi loin que l'action mauvaise est allée, et pas plus loin, afin de ne pas souiller l'esprit des amis. Et prenez garde de répandre de telles choses dans l'esprit du monde, et au-delà de ce qu'elles y sont déjà parvenues, de peur que vous ne leur donniez ainsi occasion de blasphémer le nom de Dieu, et de dire du mal de la vérité et du peuple de Dieu, ceux qui font ainsi méritent réprimande et condamnation. Soyez donc sages dans la sagesse de Dieu, et que nul n'accuse personne, publiquement, soit dans une réunion mensuelle, soit dans une réunion trimestrielle, à moins qu'il ne lui ait d'abord parlé en particulier, puis avec deux ou trois, comme dit plus haut. Et chers amis, dans la puissance du Seigneur Dieu, vous qui êtes rassemblés avec elle, qui est l'autorité de vos réunions d'hommes et de femmes, dans la puissance du Seigneur Jésus, veillez à ce que toute chose aille bien parmi vous, vous qui marchez tous dans la vérité, et comme il convient à l'Évangile de Christ, à sa lumière et à sa vie glorieuse, afin que tout se lève pour la gloire de Dieu, et soit vaillant pour sa vérité, et y grandisse tous. Et si quelqu'un entend des rapports, ou a quelque chose contre un frère ou une sœur, qu'il lui en parle d'abord, avant de le déclarer au dehors, et cela réprimera la médisance et les chuchotements, et préservera l'amour fraternel. Et que toute licence, quelle qu'elle soit, soit réprouvée, et admonestée, exhortée et encouragée ceux qui sont jeunes et tendres, pour les garder et les préserver dans la voie de la vie, et ainsi, veiller les uns sur les autres pour le bien. Et que l'on prenne soin de temps en temps, selon l'impulsion reçue par les amis, de pourvoir aux nécessités des amis fidèles, et à d'autres services de la vérité qui seront confiés aux mains d'un ami fidèle ou de plusieurs, que l'on prie d'être receveur à cette fin, lesquels devront rendre compte de toutes les sommes d'argent qu'ils leur ont reçues et déboursées à la prochaine réunion mensuelle ou trimestrielle après leur emploi, si cela est demandé. Et ainsi le compte doit être clos, afin que les amis qui servent au ministère ne soient pas en bas. Et vous tous, amis, soyez pleins de sollicitude envers tous les amis qui sont prisonniers pour la vérité, et envers les malades et les faibles, les étrangers et les orphelins, les veuves, les serviteurs et les enfants dont les parents, maîtres ou maîtresses et proches ne sont pas des amis. En demeurant dans la puissance du Seigneur, elle vous conduira en toutes choses sans beaucoup de paroles, et vous amènera à voir, à sentir et à vivre dans ce qui était avant qu'il y eût inimitié, ou même des paroles, et qui enchaînera celle-ci en dessous. En cela vous aurez tous l'unité, et vous serez tous comme une famille, et en cela tous comme un seul, en cela est la paix et l'unité. Et aussi que toutes les veuves soient remarquées dans toutes vos diverses réunions, et qu'on les informe et les encourage dans leurs affaires extérieures, afin qu'aucun empêchement ne leur soit opposé dans leur croissance intérieure. Qu'on veille donc soigneusement sur elles, afin qu'elles soient nourries et chéries, et préservées dans la vérité, afin que l'amour croisse. Et si elles ont beaucoup d'enfants, qui peuvent être pour elles un fardeau à élever, pour les placer en apprentissage ou en service, alors que les amis prennent soin de les soulager en les plaçant, comme on le jugera convenable. Que toutes ces choses soient examinées dans chaque réunion, et qu'on en donne avis à la prochaine réunion mensuelle ou trimestrielle, et que certains soient chargés de veiller à ce que toutes ces choses soient faites selon la vérité et la justice. Et dans toutes vos réunions, que la réunion trimestrielle soit informée de tous les amis pauvres, et lorsque vous aurez entendu qu'il y a beaucoup plus de pauvres rattachés à une réunion qu'à une autre, et que cette réunion en est chargée et accablée, que le reste des réunions l'assiste et l'aide, afin que vous vous soulagiez les uns les autres, et que vous aidiez à porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi de Christ. Et veillez ainsi à ce que rien ne manque, selon les paroles de l'apôtre, remarquez, rien ne manque, alors tout va bien. Car les Juifs selon la chair, bien qu'ils fussent nombreux comme les étoiles du ciel et le sable du rivage de la mer, il ne devait pourtant pas y avoir de mendiants parmi eux, selon la loi de Dieu. Et parmi les chrétiens du premier âge, il fut établi à Jérusalem une réunion d'hommes pour veiller à ce que rien ne manque, ce qui était l'ordre de l'Évangile selon la loi de Jésus, et cela se maintint tant qu'ils vécurent dans la vie, la puissance et l'Esprit de Dieu. Mais quand l'apostasie survint, et que la véritable Église s'enfuit au désert, où elle devait demeurer 1260 jours, et que les témoins prophétisèrent en sac pendant 1260 jours, et que la bête fut adorée tout aussi longtemps, 1260 jours, alors tout sortit de l'ordre, et tout manqua en ce temps-là, quand ils adorèrent le dragon et la bête, et le diable fit du monde comme un désert. Mais maintenant est venu le jugement de la grande prostituée et de la bête, et avec du faux prophète et du dragon, qui seront jetés vivants dans l'étang de feu, et la véritable Église remonte hors du désert, et l'enfant mâle, qui avait été enlevé au ciel, est redescendu pour gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et les noces de l'agneau sont venues, et l'agneau et les saints auront la victoire, et l'évangile éternel et sera prêché de nouveau comme parmi les apôtres, et l'ordre de l'évangile sera rétabli comme parmi. Ainsi, il ne doit pas y avoir maintenant de mendiants parmi les chrétiens, selon la loi de Jésus, comme il ne devait pas y en avoir parmi les juifs selon la loi de Moïse. Et chers amis, vous qui sentez la puissance du Dieu éternel, car tous ceux qui en sont hors sont dans la confusion, vous étant entrés dans la crainte de Dieu, qui est le commencement de la vraie sagesse, par laquelle toutes choses ont été créées, et par elle toutes choses doivent être ordonnées de nouveau à la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont hors de cette sagesse sont dans l'état terrestre, diabolique et destructeur, mais la sagesse d'en haut est douce et pure, et vous préserve, oui, et toute la création à la gloire de Dieu. Maintenant que des réunions mensuelles et trimestrielles de deux ou trois personnes issues de chaque réunion particulière d'amis vrais et fidèles sont établies, et tenues au lieu le plus commode au centre de votre comté, vous pouvez connaître dans vos réunions les besoins et les nécessités de tous les amis, qu'ils soient enchaînés ou libres, veuves ou orphelins ou personnes âgées, leurs besoins étant examinés et chacun ressentant la condition de l'autre. Cela entretient la tendresse et l'amour, comme dans une famille, et puisque rien ne manque parmi vous. Et par là, une réunion peut être utile à une autre en choses extérieures, car c'est là le moindre des amours, et par là vous pouvez en venir à la pratique de la religion pure, qui consiste à secourir les veuves, les étrangers, les orphelins et les démunis. Et amis, tous les legs donnés aux réunions d'hommes ou de femmes, qu'ils soient conservés comme un fonds public pour placer des apprentis et les établir, et que les amis étaient pourvoient à une maison pour ceux qui sont malades, afin qu'ils n'aillent pas vers le monde, et qu'ils aient un hospice ou un hôpital pour tous les amis pauvres qui ne sont plus en état de travailler. Et que les amis étaient pourvoient à une maison ou des maisons, où une centaine puissent avoir des chambres pour y travailler, et des boutiques de toutes sortes de choses à vendre, et où des veuves et de jeunes femmes pourraient travailler et vivre. Et chers amis, demeurez tous dans la puissance éternelle de Dieu et sa vie, où se trouvent à la fois unité, ordre, paix et communion, et attendez dans la crainte du Dieu éternel, afin de recevoir sa sagesse pure et douce d'en haut, par laquelle toutes choses ont été faites, et par laquelle vous pourrez ordonner toutes choses à la gloire de Dieu. Soyez pleins de sollicitude envers les pauvres, les malades, les veuves, les orphelins et les prisonniers, et ressentez l'état de chacun comme le vôtre, et que rien ne manque parmi vous, selon la doctrine de l'apôtre adressée jadis à l'Église de Dieu, et si rien ne manque, tout va bien. Et chers amis, sachez dans toutes vos réunions qui est malade, faible et dans le besoin, ainsi que les veuves, les orphelins et les personnes âgées qui ne peuvent s'aider elles-mêmes, et que ceux à qui Dieu a distribué, à partir de ce que Dieu a distribué, mettent de côté pour les nécessités des autres, selon que vous en êtes émus et commandés par le Seigneur Dieu, par sa puissance et son esprit, car celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et il aime celui qui donne avec joie. Deuxièmement, que l'on ait soin de tous les prisonniers pour la vérité, qu'ils soient dans le besoin ou non, et des familles de ceux qui sont en prison, qu'elles soient dans la gêne ou non, et de ceux qui ont dépéri d'une manière ou d'une autre et ne peuvent s'aider eux-mêmes, et de ceux qui ont quitté une profession qu'ils ne peuvent exercer par scrupule de conscience, faites de votre mieux pour les aider et les orienter vers un emploi, afin qu'ils puissent travailler à ce qui est bon et être une bénédiction dans la création, vous pouvez faire cela, afin d'être une bénédiction dans votre... Et tous les enfants orphelins, leurs biens doivent être consignés dans un livre à la réunion mensuelle ou trimestrielle, et tous ceux à qui l'on a confié des biens peuvent être inscrits aux réunions mensuelles ou trimestrielles, biens d'orphelins ou de veuves, afin que la réunion voie que justice leur est faite, et qu'elle puisse exiger de qu'ils rendent compte, si besoin est, et qu'ils fassent ce qui est juste et équitable, afin qu'il n'y ait parmi vous aucune crêle au sujet des choses extérieures. Et que chacun à qui sont confiés des biens de veuves ou d'enfants orphelins soit fidèle, et ne leur fasse pas des fautes au temps du besoin. Et que chaque réunion trimestrielle garde un œil sur ceux à qui l'on a confié ces choses, et les aide à faire ce qui est droit et juste, et veille à ce qu'ils soient fidèles à leur charge. Ainsi la justice, l'équité, la vérité et l'impartialité couleront parmi vous, et la sagesse de Dieu sera parmi les amis pour les ordonner en toutes choses à sa gloire. Et que deux amis fidèles dans la vérité, dans chaque réunion particulière, soient chargés de recevoir toutes les collectes et de les porter aux réunions mensuelles, et que deux amis de même sorte les reçoivent là et les portent à la réunion trimestrielle, et que quatre amis fidèles les y reçoivent. Et quelles que soient les collectes reçues, qu'on tienne un compte de ce qui est reçu et de à qui cela est distribué, afin qu'un compte puisse être rendu à tout ami fidèle qui pourrait le désirer. Et que dans chaque réunion mensuelle et trimestrielle on s'enquière de quels pauvres il y a, et de ceux qui sont aptes à être placés comme apprentis ou serviteurs, et que les amis alors et là puissent les mettre en apprentissage dans tel métier qu'ils jugeront, avec sagesse convenable. Et si quelques legs est laissé par un ami défunt pour un usage particulier, tel que placer des apprentis et élever les enfants des amis pauvres, que ladite somme soit tenue distincte comme un fonds pour le dit usage, et qu'on en tienne un compte particulier, et que la réunion trimestrielle nomme quelques personnes pour recevoir l'argent et en tenir le compte, et que la réunion veille à ce qu'il soit affecté aux usages susdits. Et si quelque partie du capital vient, à quelque moment, à être employée à un autre usage, qu'elle soit reconstituée par la réunion trimestrielle des amis. Et bien que l'argent soit laissé ou donné à un ami particulier pour l'usage susdit, qu'il soit néanmoins versé aux deux ou trois personnes que la réunion trimestrielle désignera pour recevoir cet argent, afin que la réunion ait l'ordonnancement et l'emploi de la dite somme au meilleur avantage pour les usages susdits. Ainsi, les legs donnés séparément à la réunion des hommes ou des femmes doivent être conservés séparément pour mettre en apprentissage les enfants des amis pauvres et les établir dans leur métier, afin que la mémoire de l'ami défunt, juste qui les a donnés, ne soit pas oubliée. Et vous tous, amis dans la sagesse de Dieu, élevez vos enfants dans la crainte de Dieu, afin qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu, et selon leur capacité, qu'ils soient instruits et maintenus employés dans une profession licite, afin qu'ils soient diligents, servant le Seigneur dans les choses qui sont bonnes, que nul ne vive dans l'oisiveté, ni ne soit destructeur de la création ou inutile dans la création, et ne devienne ainsi un fardeau pour les autres et pour les justes en eux-mêmes, mais que tous marchent dans la sagesse de Dieu, et qu'avec elle toutes choses. Et vous tous, amis, veillez à ce que vos enfants soient élevés dans la sobriété, la sainteté, la justice, la tempérance, la douceur, la gentillesse, l'humilité et la modestie dans leurs vêtements et leur conduite, et exhortez ainsi vos enfants et vos familles dans la vérité, afin que le Seigneur soit glorifié dans toutes vos familles. Enseignez vos enfants lorsqu'ils sont jeunes, alors ils s'en souviendront quand ils seront vieux, selon le conseil de Salomon. Ainsi vos enfants pourront être une bénédiction pour vous, et non une malédiction. Et tous les hommes et les femmes doivent ordonner leurs enfants et leurs serviteurs selon l'ordre de l'Évangile et dans la Nouvelle Alliance, afin qu'ils en viennent tous à connaître le Seigneur. Car les Juifs selon la chair devaient élever leurs enfants dans l'ancienne loi, dans l'ancienne alliance. Et ainsi vous, qui êtes appelés chrétiens, devez élever vos enfants dans la crainte du Seigneur et en Christ Jésus, afin qu'ils marchent en lui avec modestie, sainteté et vertu, et ainsi que tous gouvernent leur famille. Et ceux qui doivent gouverner doivent eux-mêmes être gouvernés et réglés par l'Esprit et la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu, et comme exemple dans leur famille. Car toute licence est hors de la puissance de Dieu, soit en parole, soit en vie. Et ainsi, par la puissance de Dieu, et sa justice, sa vérité, sa lumière et sa vie, tout cela doit être jugé et maintenu sous le joug et abaissé, et il faut marcher dans la vérité, la lumière et l'Esprit de Dieu, dont toute licence est exclue. Ainsi, quelles que soient les choses de bonne renommée, ou les choses aimables, ou les choses pures, décentes, vertueuses, pieuses, justes, saintes et droites, recherchez-les. Et faites les œuvres de l'amour, non pas vos propres œuvres, mais les bonnes œuvres de l'hospitalité qui sont agréées de Dieu. Et gardez l'ordre de l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût et qui est au-dessus de lui, laquelle met en lumière chez les hommes et les femmes la vie et l'immortalité. Et les hommes et les femmes doivent marcher dans cette puissance de Dieu et demeurer en étant héritiers et sous le gouvernement de Christ Jésus qui écrase la tête du serpent et le détruit. Lui et son gouvernement, hommes et femmes étant ensemble héritiers de la grâce et de la vie et de la puissance de Dieu et de l'Évangile de Christ Jésus l'amène. Et ainsi, comme ils viennent à le posséder et à l'hériter, lui et l'ordre de son évangile, ils viennent à posséder son gouvernement et son ordre, dont l'accroissement n'a pas de fin. Et qu'on prenne note de tous les mauvais parleurs, médisants, calomniateurs, bavards insensés et plaisantins oisifs, car tout cela corrompt les bonnes mœurs, et ne sont pas selon la pratique des saints et des hommes saints, dont les paroles étaient assaisonnées de sel, communiquant la grâce à ceux qui les entendaient. Et tous ceux qui vont de haut en bas pour tromper, en empruntant et en obtenant de l'argent des amis, et qui en ont trompé plusieurs, tous ceux-là doivent être arrêtés et jugés, et avis de doivent être donnés aux amis et à d'autres personnes. Et chers amis, dans la semence éternelle de vie, de sagesse et de salut, mon désir est que vous y soyez tous préservés, à la gloire de Dieu, et dans sa puissance, sa lumière et sa vie, au-dessus de la mort et des ténèbres, dans l'unité céleste, dans toutes vos réunions. À présent, concernant ceux qui vont à la réunion trimestrielle, ils doivent être des amis solides, capables de rendre témoignage de vos souffrances et de l'état des choses parmi vous, dans chaque réunion particulière. Ainsi, nul qui soit une expérience tout faible, et qui ne soit pas en mesure de rendre témoignage des affaires de l'Église et de la vérité, ne doit aller, au nom des réunions particulières, aux réunions trimestrielles, mais qu'il soit nourri dans vos réunions mensuelles, et y soit rendu apte au service du Seigneur. Ainsi deux peuvent aller une fois de chaque réunion particulière, et deux une autre fois, ou selon ce qui est ordonné dans vos réunions mensuelles. Ainsi, certains peuvent venir de toutes vos réunions, qui composent vos réunions mensuelles, car la réunion trimestrielle doit être composée d'amis graves, éprouvés et solides, qui comprennent les affaires de l'Église, car nul indiscipliné et non mûri ne doit y venir, ni même aux réunions mensuelles, mais seulement ceux qui sont sincères, éprouvés et honnêtes. Et si quelqu'un devait répéter ou colporter quoi que ce soit hors de vos réunions mensuelles ou trimestrielles, au détriment ou pour diffamer une personne ou les réunions, cela doivent être amenés au jugement et à la condamnation, car cela brise le privilège et l'ordre de votre société chrétienne dans vos réunions, afin que tout soit gardé et préservé dans la puissance du Seigneur et dans son esprit, dans l'amour et l'unité. Gardez donc vos réunions fermes et sobres, et que l'autorité de vos réunions d'hommes et de femmes soit dans la puissance de Dieu, car tout héritier de la puissance a droit à cette autorité, et par elle maintenez, dans son Église, la paix du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et ainsi que le Seigneur vous donne la sagesse, afin que par elle vous soyez ordonnés à sa gloire, et que chacun ait souci de la gloire de Dieu, de son nom et de sa vérité, et que dans sa puissance, vous veillez à ce que tous marchent comme il convient à son évangile glorieux, qui a mis en lumière pour vous la vie et l'immortalité, et qui vous préservera dans la vie et l'immortalité, au-dessus du diable qui vous a obscurci. Ainsi rien ne pourra s'interposer entre vos âmes et vos esprits, et le Seigneur Dieu, afin qu'il soit glorifié en vous tous, et par vous tous, et au-dessus de vous tous, béni à jamais. Amen. Et le plus petit membre dans l'Église a une fonction et rend service, et chaque membre a besoin des autres. Et maintenant, amis, autant vous avez de réunions mensuelles d'hommes dans votre comté, autant vous pouvez avoir de réunions mensuelles de femmes. Et si une fois par an au moins, vous aviez une réunion générale de femmes, ce serait bien, car dans certains comtés ils ont autant de réunions trimestrielles de femmes que d'hommes, et dans d'autres ils n'en ont que deux en été, parce que les routes sont mauvaises et les jours courts en hiver. Et qu'un ou deux amis, dans chaque réunion, tiennent le compte de tous les mariages, naissances et enterrements, et les portent aux réunions mensuelles, et que là un ou deux soient chargés de les recevoir et de les consigner dans un livre, qui doit être conservé aux réunions mensuelles. Et de là, qu'une copie de ce qui est consigné soit portée à la réunion trimestrielle, et qu'un ou deux amis y soient désignés pour les recevoir et les consigner tous dans un seul livre, qui doit être conservé pour l'ensemble du comté. Et ce sera le plus sûr, afin que si un livre venait à être perdu, l'autre puisse être conservé pour l'usage de ceux qui pourraient en avoir besoin. Et que tous les amis, qui ne l'ont pas déjà fait, puissent promptement se procurer des lieux d'inhumation convenables, afin que par là se dresse un témoignage contre l'idolâtrie superstitieuse de ces lieux appelés Terre Sainte. Car Abraham acheta un lieu pour y enterrer ses morts, et ne voulut pas les enterrer parmi les Égyptiens et les Cananéens. Et Jacob fut ramené hors d'Égypte, ainsi que Joseph, et ils furent enterrés dans les lieux d'inhumation de leurs grands-pères et de leurs pères. Ainsi, amis, procurez-vous des lieux d'inhumation décents pour vos morts, et qu'ils soient décemment et bien clôturés, afin de donner au monde un bon exemple en toutes choses. Et chers amis, faites tout ce que vous faites dans la paix et l'amour, et dans la crainte de Dieu, en vous accommodant les uns aux autres, dans la simplicité et l'innocence de la vie et de la vérité, et dans la sagesse de Dieu, afin que cela soit la couronne de chacun, de sorte que rien ne soit fait dans la crêle pour donner occasion à des paroles, car vous êtes appelés à la paix et à la sainteté, en lesquelles le royaume subsiste, et à vous servir les uns les autres dans l'amour. Et mon amour va à tous les amis dans la semence éternelle de Dieu, où se trouve la vie, la pureté, la netteté et la justice qui resplendit sur tout. Et vous tous, amis, faites ce que vous faites dans la puissance de Dieu, et alors vous êtes les hommes libres du Seigneur dans l'amour, et non des captifs, car tout ce qui est fait hors de la puissance de Dieu est dans la captivité. Attendez donc, tous dans la puissance du Seigneur et dans la lumière, où vous sentirez la vie et la paix, et la bénédiction du Seigneur. Ainsi en cela, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve, vous garde au-dessus de tout ce qui est contraire, et vous donne victoire et domination. Et vivez dans la paix et l'amour, dans l'esprit et la puissance de Dieu, où se trouve l'unité et la communion dans le lien de la paix, afin que la vérité et la vie règnent parmi vous, et qu'en toute chose vous puissiez parer et honorer la vérité, qui n'a jamais de fin. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve dans sa semence, sa vie et sa sagesse, et vous donne une victoire et une domination éclairée sur tout ce qui est contraire, afin que vous sentiez le règne et l'autorité de Christ, dans lesquels vous puissiez tous agir par sa puissance et son autorité. Ainsi en cela, que Dieu Tout-Puissant vous préserve, et dressez un état de tous ceux qui sont morts en prison, dans chaque comté, pour le témoignage de la vérité, et présentez-le au magistrat, et ainsi gardez les amis quittes du sang de tous les hommes. Et conservez une liste de leurs souffrances, avec le nombre de ceux qui sont morts en prison, afin que leur sang retombe sur ceux qui l'ont convoité, et afin que leur témoignage, eux qui l'ont scellé de leur sang, ne soit pas perdu, mais qu'il soit préservé. Et consignez-les ainsi dans les livres de vos réunions trimestrielles, afin que le mémorial des innocents souffrant pour la vérité et le nom de Jésus ne soient ni perdus ni oubliés, afin que son nom et sa puissance, qui les ont soutenus, soient exaltés, et qui les ont portés au-dessus de la mort, de leurs persécuteurs et du pillage de leurs biens. Ainsi, dans la semence céleste, Christ Jésus, qui règne, qui est le rocher vivant et le fondement, et demeure ferme pour que tous ses élus bâtis sur lui, tenez-vous au-dessus de tous les rochers et fondements qui sont en dessous et qui auront une fin, et en lui, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve et vous garde tous. Amen. Et tous mes chers amis partout, qui ont été poussés par le Seigneur Dieu à parler dans les églises aux prêtres, ou sur les marchés au peuple, ou dans les tribunaux, ou dans les foires, ou aux assises, ou dans les villes, qu'un compte rendu de cela soit rassemblé dans un seul livre, avec la substance des paroles qu'ils ont prononcées dans la puissance de Dieu. Ce serait un livre qui pourrait demeurer pour des générations, afin qu'elles puissent voir leur fidèle témoignage, et qu'elles forcent Dieu à ordonner de la bouche des petits-enfants et de ceux qui têtent, et aussi les amis qui ont été poussés à se rendre aux réunions des professants, afin que leur témoignage là ne soit pas perdu, avec tous les exemples de ce qui est tombé sur les persécuteurs. Et que les témoignages des amis décédés soient consignés, afin que le témoignage du Seigneur, par ses serviteurs qu'il a suscités dans son peuple, ne soit pas perdu, car ils ont traversé de grandes tribulations et souffrances, et beaucoup ont donné leur vie, et ont vu leurs biens pillés, et ont été persécutés jusqu'à la mort, afin de maintenir leur témoignage, que le Seigneur les poussa à proclamer par son esprit pour les générations futures. Afin que ces paroles, qu'ils furent poussés à prononcer par la puissance, ne soient pas perdues, afin que la puissance et l'esprit du Seigneur soient exaltés. Ainsi, qu'on fasse le relevé de ce qui a été dit et fait par les mouvements de l'Esprit de Dieu depuis le commencement, comme mentionné ci-dessus. Soyez donc diligents, et que ceux qui savent écrire aident ceux qui ne le peuvent pas. Cela peut se faire aisément, et tous ceux qui sont ministres publics, s'ils sont inconnus, et qui parcourent les pays et d'autres nations, qu'ils aient un certificat de leur réunion, où ces personnes sont connues et où toutes leurs pratiques sont examinées, cela empêchera quelque mauvais esprit de scandaliser des gens honnêtes. Car ceux qui servent aux autres doivent avoir un double soin de la vertu, de la chasteté, de la patience, de la prudence et de la vigilance, plus que leurs auditeurs, de peur qu'ils ne les jugent. Car Christ, l'homme céleste, est notre exemple, et l'apôtre a dit « Suivez-nous, comme nous suivons Christ ». Car quiconque estime les convoitises misérables avant la vertu n'en est pas digne, et celui qui préfère son impiété, son absence de sainteté et sa mondanité à ce qui est céleste n'est pas digne du céleste, ni de la piété, ni de la justice, etc. Et chers amis, soyez fidèles, vous qui connaissez la lumière, la vérité et la puissance de Dieu, et sa vie, soyez fidèles dans la sagesse de Dieu, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, et par laquelle toutes les choses créées doivent être ordonnées de nouveau à la gloire du Créateur. Et vous qui êtes venus à connaître la vérité et la puissance qu'elle a, venez tous à connaître l'ordre de la vie, afin que toute chose soit gardée dans ce doux ordre et ce gouvernement, à la gloire de Dieu et au rafraîchissement de tous, et comme un doux parfum pour Dieu et dans le cœur de tous les hommes, afin que par la sagesse de Dieu, vous puissiez orner la vérité en toute chose pour la préservation de l'amour, de la paix et de l'unité parmi tous. Et vivez dans la vérité paisible, et demeurez dans l'ordre céleste de l'Évangile, et dans le gouvernement de l'homme céleste, dont l'accroissement n'a pas de fin, et marchez dans la religion pure et sans souillure, qui vous garde des tâches du monde, et dans l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, dont le diable est exclu. Ainsi, dans la vérité, vous serez préservés dans la paix avec Dieu et les uns avec les autres, et dans l'esprit de vérité, vous serez préservés dans son unité et sa communion, où se trouve le lien de la paix. Et mon désir est que tous les hommes fidèles et toutes les femmes fidèles, dans la lumière, la puissance et l'esprit de Christ, soient gardés dans la possession de la vérité, et que tout cela compose les réunions d'hommes et de femmes, afin que vous soyez tous en possession de l'ordre de l'Évangile et du gouvernement de Christ, la semence qui écrase la tête du serpent, qui est la tête de tout mauvais gouvernement et de tout désordre. Afin que tous soient en possession de l'ordre joyeux et glorieux de l'Évangile éternel, afin que, dans la lumière, l'Esprit et la puissance, vous ayez tous souci de la gloire de Dieu, de son honneur et de la paix de son Église, en demeurant dans l'unité de son Esprit éternel, qui est le lien du Prince céleste et spirituel, Prince de paix. Et tous ceux qui sont en possession de cela, admonestez et exhortez tous ceux qui ne marchent pas comme il convient à l'Évangile, et qui ne glorifient pas le Seigneur dans leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Et veillez ainsi à ce que, comme chacun a reçu Christ Jésus, il marche en lui, afin que tous marchent dans la sainteté qui convient à la maison de Dieu, afin que Dieu soit glorifié par sa lumière, sa puissance et son esprit en tout, lui qui est au-dessus de tous, Dieu béni à jamais. Ainsi, le Dieu de gloire, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par lui vous vivifiez et vous êtes relevés d'entre les morts, afin que désormais vous ne viviez plus pour vous-même, mais pour lui, et que vous marchiez en lui, qui est l'Amen, et au-dessus de tous, le premier et le dernier. George Fox, les premières lettres historiques Quakers suite.